C'est l'équipe du soir, bonsoir. Zidane bragué par le Bayern, une info l'équipe, petite photo montage. Hein. Zidane n'a pas encore officiellement évidemment le survêt du Bayern. Loïc Tanzi, François Verdonnet précise que Manchester traîne aussi dans les parages. Chers téléspectateurs, je vous fais le tour de ce sondage du soir. Le conseiller de Zinedine Zidane, Zidane, le mieux pour lui, c'est le Bayern ou c'est Manchester United. Vous allez évidemment consulter, participer à ce débat sur le site l'équipe. Un président qui est aussi imitateur, c'est le président Hervé Penaud qui fait à la perfection, il paraît Giscard d'Estaing. Bonsoir.
Magnifique, magnifique. Zidane, Zidane. J'ai le rythme dans la peau, vous pouvez rien y faire, c'est comme ça.
Hervé, je vous présente votre ville-peuple.
Avec plaisir.
La fouine de l'équipe du soir, Benjamin Correz est toujours qualifié pour le dernier carré de la Ligue des Champions. On vous accepte donc. Bonsoir Benjamin.
Bonsoir Hervé, bonsoir président, vous êtes sublime. Président.
Merci, merci beaucoup. Ils ne se quittent plus puisqu'ils étaient présents au stade Montbruc à mardi dernier pour la qualification. C'est notre envoyé spécial qui est notre envoyé normal ce soir. Giovanni Castaldi, bonsoir.
Bonsoir Mémé.
Ça va ?
Mais en pleine forme, je suis content de vous retrouver. Vous étiez en vacances la semaine dernière. Vous avez pris du bon temps ?
Oui, j'ai pris du...
Là, je vous ai eu. Je suis content.
Non,
c'est rare d'avoir Mémé.
Non, mais ne vous inquiétez pas. Giovanni, en face de vous, quelqu'un qui est peut-être qui est peut-être plus beau gosse que vous, c'est le boys band. Soit Mathieu Dossévi. Bonsoir Mathieu Dossévi.
C'est moche comme musique. C'est moche.
C'est magnifique. Il est peut-être plus beau que moi, mais je suis pas jaloux de sa musique.
J'ai pas choisi.
Mathieu, si vous plaignez, je vous mets les G-Squad la semaine prochaine. Faites très attention. Et puis enfin, le Fennec de l'équipe du soir est dans la place. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Vous avez tenté la coupe. Le Jaffar de l'OM, non ?
Il y en a qui sont à côté de la plaque et il y en a qui sont dans la laque. Je fais partie de la deuxième catégorie.
Merci.
C'est un peu le Benassia de l'histoire. Bravo.
Voilà. Bah, écoutez, merci de ce compliment.
L'homme qui pilote ce soir les infos, c'est Romain Arand. Il y a beaucoup de choses à se parler. Bonsoir Romain.
Bonsoir Mémé.
Je suis toujours perturbé par ce jingle. J'ai l'impression que je vais voir quelque chose que j'ai envie de voir. En fait, non.
Après, c'est crypté. Après, ça passe en crypté.
Giovanni, t'es là pour décrypter, pas pour crypter.
Vous n'avez pas envie de voir la victoire de Nice.
Mais bien sûr que si, ami niçois.
Nice s'impose 3-0 ce soir contre Lorient en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Les images avec vous, mon cher Romain.
Une première victoire à l'Allianz Riviera depuis quasiment 3 mois pour les Niçois qui se sont imposés 3-0. Le premier but du match, il est signé. Morgan Sanson à la 22e minute. Une frappe puissante au premier poteau. Nice qui double la mise grâce à cette frappe de Jérémy Boga. Qu'Isaac Touré ne peut pas sortir.
Dommage.
Et à la 88e minute, c'est Van Gessant qui va parachever le succès des Aiglons. 3-0. Nice qui repasse 5e et qui revient à 2 points du top 4. Alors que Lorient passe de la 16e à la 17e place et donc en position de relégation, tout simplement, à cause de la différence de but. Et désormais, Metz est devant Lorient.
Ok. On en reparle peut-être dans quelques minutes. PSG et l'OM protégés, c'était dans l'air. C'est désormais officiel. Le conseil d'administration de la Ligue fait une fleur aux deux clubs français les plus populaires. Les matchs du PSG à Nice et de l'OM à Reims, comptant pour la 32e journée de Ligue 1, se joueront le mercredi 15 mai prochain. Initialement, Reims-OM et Nice-Paris-Saint-Germain devaient se jouer le 3 mai, entre les demi-finales aller et le demi-finale retour des Coupes d'Europe. Mais le CA de la Ligue a décidé donc d'alléger le calendrier pour faciliter la récupération et donc la compétitivité de ces deux clubs. Cette info a été largement commentée aujourd'hui en conférence de presse par notamment trois coachs. On va commencer par Éric Roy, coach de Brest. On l'a, ça vient de Brest, c'est un peu long.
C'est pas facile, Brest, c'est long.
Un Paris-Brest, c'est toujours sympa.
Allez, Éric Roy, du côté de Brest.
T'es vif quand même.
Je vais vite. Ouais. moins que toi sur le terrain, quand même.
Ouais, ça fuse.
J'ai l'impression qu'Éric,
il était tellement. Il y a un complot, bien sûr, que je n'y pense pas. La seule chose, c'est que il faut être réaliste. Je suis conscient aussi que quelque part. En Coupe d'Europe, c'est mieux d'avoir Lyon avec un grand stade, avec une grande équipe, avec des gros budgets. C'est mieux d'avoir Marseille avec un grand stade, et on l'a vu hier. Je sais très bien que, peut-être pour certains, alors même médias, hein, même institutions du football en général, d'avoir Brest, la Coupe d'Europe l'année prochaine, c'est pas le truc le plus sexy peut-être pour eux, quoi. Que ce contexte, environnement, qui est quelque part, moi je peux le comprendre. un peu défavorable pour nous, ben, il faut que ça nous serve encore plus à nous souder, à être solidaires et à ne croire qu'en nous pour pouvoir aller chercher les résultats.
Merci mes amis. Ces reports fossiles, le championnat. De 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un super duel jingle. Il y a deux oui. Dans l'équipe des oui, il y a Quarez et Djellit. Benjamin, vous êtes là. Nabil, vous êtes là. Qui commence?
Comme tu veux.
Allez, je commence.
Ok. Benjamin, vous commencez. Giovanni et Mathieu de Séville, c'est un non. Qui commence?
Vas-y, Mathieu.
Mathieu commencera. Ces reports fossiles, le championnat. Benjamin, vous répondez oui. Quels sont vos arguments?
Moi, je comprends même pas qu'il y ait débat. Pour le coup, c'est forcément préjudiciable pour les Lorientais, les Niçois. Ils vont être impactés au niveau du calendrier sur la fin de saison avec un enchaînement de trois matchs en une semaine sur un sprint final qui va être très compliqué. Je pense notamment à nos amis niçois qui, eux, on vient d'enchaîner déjà 15 jours sans jouer, qui vont réenchaîner du coup une série de 15 jours sans jouer, qui vont avoir 3 jours avant un match, dernier match très important contre Lille, qui sera peut-être un concurrent direct pour la dernière journée. Tout ça me fait penser qu'effectivement, pour ces clubs-là, il y aura un impact considérable sur la fin de saison. Et je ne suis pas naïf, c'est forcément politique. En tout cas, c'est mon avis.
Ces reports fossiles le championnat. Non, Mathieu de Séville, pourquoi?
Non, pour moi, c'est un faux débat, parce que c'est sur 38 journées. Alors, à l'instant T, on peut toujours dire d'accord, mais voilà, t'as 36 journées, pardon. Il y a toujours des aléas dans une saison complète. Tu rencontres des adversaires qui ont des blessés. Des fois, il y a d'autres compétitions comme la CAN, etc. On s'en plaint, mais ça s'égalise toujours sur une saison. Donc pour moi, voilà, c'est un faux débat. On essaye toujours de se dédouaner, mais non, pour moi. C'est pas préjudiciable.
Ligue 1 18, 34 journées, pas 38. Cher Mathieu, attention, actualisez vos données. Arrive, Giovanni Castaldi, c'est oui, pourquoi?
Non, c'est Nabil,
excusez-moi.
Non, mais c'est probablement l'exception culturelle française à l'échelle européenne. En avantager certains pour en désavantager certains, parce que certains ne travaillent pas correctement. L'Atalanta Bergame, eux, on n'aménage pas leur calendrier. Ils ont même moins d'argent que l'Olympique de Marseille, mais sauf qu'ils proposent un football attractif et donc ils n'ont pas besoin qu'on leur aménage leur calendrier. Évidemment, c'est un peu comme si on enlevait l'ISF pour faire plaisir à certains et en mettre d'autres en difficulté. C'est comme ça que je lis cette histoire.
Giovanni, vous avez la main, c'est un faux débat, c'est un argument utilisé par votre partenaire Mathieu de Séville.
Mais on passe notre vie à être ridicule en Coupe d'Europe, on a deux clubs qui sont en demi-finale, moi je trouve ça logique qu'on aménage les calendriers. Je vois pas en quoi sur deux journées ça va perturber d'avoir un enchaînement de trois matchs chez des joueurs professionnels, la préparation est passée. Je pense pas que Nice soit déboussolé, qu'ils ont été catastrophiques pendant deux mois, ils jouaient une fois par semaine, ça les a pas empêchés de paumer et d'être bidons. Donc en fait, c'est le hasard du calendrier. C'est comme ça, on a deux clubs importants en Coupe d'Europe. On l'a fait aussi pour Lille et on l'a vu, ça s'est bien passé face à Villa. Pour une fois que ça marche en Europe, autant les encourager.
Merci beaucoup. Fin de ce super duel. Non, Nabil, non.
Si les clubs cherchent des chargés de com, là, il y en a.
Attention, mes amis. Non, Nabil.
10 000 par mois. La saison prochaine.
Non. Là, franchement, vous mettez en avant et vous doutez de la probité de Giovanni Castaldi.
J'ai pas parlé que de Giovanni, déjà.
Si c'était un peu ciblé,
j'ai dit au pluriel. Non, c'est pas mon style. Aux fléchettes seulement.
Cher directeur sportif de Ligue 1, vous connaîtra le rib de Giovanni Castaldi. Si c'est oui, c'est Benjamin. Et Nabil, si c'est non, c'est Giovanni et Mathieu. Vous allez sur le site L'Équipe. Président, vous avez écouté attentivement. Vous tranchez, ça fausse ou pas alors?
C'est très intéressant, le duel. Mais bon, déjà Nabil, que j'adore Nabil, il est un peu hors sujet. Il n'a pas répondu à la question. En fait. Il a répondu à savoir si le club bossait bien ou pas bien. Bon, ça, c'est un autre débat.
Mais il me restait 20 secondes.
Alors, je prendrai l'argument de Benjamin, et finalement, qui a été bien contré. Hein, d'une certaine manière, en fin de duel. Ouais. Quand il a expliqué, il a parlé de Nice, ça va les impacter. Et finalement, les Nice étaient nuls pendant une période où ils jouaient une fois par semaine. Ça, c'est un
attends, ôte-moi d'un doute, Hervé. Ôte-moi d'un doute. T'es pas du côté des puissants, ça t'arrive jamais.
Pourquoi?
Non, c'est juste.
Pourquoi les puissants? On a puissant.
Non, excusez-moi, j'avertis Nabil. Lorsqu'il y a un verdict du président, soit vous demandez audience, soit là, vous êtes averti. Je suis désolé. Allez-y.
Donc effectivement, après, Giovanni a bien contré en expliquant que Nice, à une période où ils jouaient un match par semaine, ils étaient nuls. Donc peut-être que ça va même les avantager. Et moi, je suis d'accord tout à fait avec Mathieu. C'est-à-dire que des aléas dans une saison, il y en a plein. Alors, le débat auquel a voulu répondre Nabil, qui a un autre débat, qui est de savoir est-ce que vous êtes pour ou contre le fait qu'il y a un déplacement de match. Mais ça, c'est un autre débat.
C'est autre chose.
Moi, je suis pour, par exemple, parce que je pense qu'à un moment, la somme des petites individualités, ça ne doit pas dépasser l'impact collectif pour le football français, qui est d'essayer d'avoir d'avoir des clubs un peu plus loin en Coupe d'Europe. Non, ça, c'est capital. Donc ça... Ça, c'est un autre débat. Donc, je vais donner mon point à ceux, évidemment, qui disent que ça ne fausse pas le championnat, parce que des aléas, il y en a tout le temps. On peut parler de la CAN, par exemple.
Cet allègement du calendrier justifié par la Ligue, en tout cas du conseil d'administration de la Ligue aujourd'hui, pour favoriser donc le Paris Saint-Germain et l'OM. Juste un cas particulier, on va jeter donc un coup d'œil sur le calendrier de l'OM. Et on a pris le calendrier au match d'hier. Donc, avec une prolongation, série de tirs au but donc contre Benfica. Entre OM-Benfica, derrière, ce week-end, c'est le match déplacement à Toulouse. Puis une réception de Nice, puis une réception de Lens, puis l'Atalanta. Donc, quand l'OM va affronter l'Atalanta, Bergame, au match aller, l'OM aura disputé son cinquième match en 15 jours. Et si l'OM dispute un match supplémentaire, c'est qu'il avait déjà eu une fleur du côté de la Ligue. La Ligue vient-elle, on va dire, d'aggraver le calendrier initial de l'OM, finalement, là ? En voulant reporter, à un moment, il y a un effet bouchon. Et voilà, ce qu'on a pour arriver donc au match aller à l'Atalanta Bergame.
C'est pas aggravé. Oui, mais... il le rattrape. C'est juste que sur la séquence du match aller-retour, tu te donnes la possibilité et tu laisses à un club d'être dans des conditions optimales pour penser à cette Coupe d'Europe. Moi, je trouve que c'est un terrible désaveu.
Oui, mais là, ils peuvent être éliminés dès le match aller. Hein. Là, avec cette cadence infernale, ouais. On voit l'Olympique de Marseille qui est déjà sur les rotules. Là, les 5 matchs pour arriver donc en moins de 15 jours du côté de l'OM, ils vont pouvoir se reposer, mais finalement, les carottes pourraient être cuites.
Mais le but, le premier but déjà, c'était de se qualifier contre Benfica. Vous avez vu l'ambiance qu'il y avait dans le stade, la manière dont il y a eu une effervescence incroyable autour de la ville sur ce match-là. C'est ça qui est beau. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est de voir des clubs français un petit peu plus loin. Alors, l'argument de Nabil qui est de dire, finalement, parce qu'ils ne bossent pas bien, puisque les autres jouent le week-end. Mais on a gagné combien de Coupes d'Europe ? Jamais.
Mais tu penses qu'on est toujours mauvais. Tu penses que c'est lié à ça ?
Si, pour une fois que la LFP...
Attends, je vais dire un truc très rapidement.
Les trois matchs des clubs français.
Je vais dire un truc très rapidement.
Tu m'as posé la question, je réponds tout de suite. Les trois clubs français, Lille... Ils ont été beaucoup plus forts qu'Aston Villa. Ouais. Et je pense qu'Aston Villa, qui ne changeait, comme me disait Jean-Michel Rouet, d'ailleurs, qui vous embrasse tous, que j'avais vu autour du stade, il a dit, Aston Villa, ils jouent toujours avec les mêmes joueurs. Ils ont joué avec ces joueurs-là, Arsenal. Ils étaient rincés contre Lille. Lille, le fait d'avoir une semaine, David l'a dit, à un moment, quand même, ça permet aux organismes de se reposer. Est-ce que vous pensez que l'OM, s'ils avaient joué ce week-end, avec l'hécatombe qui est dans cette équipe, ils auraient eu pas moins de chances de gagner contre Benfica? Et Paris Saint-Germain, mine de rien, ils ont été aussi physiquement très forts par rapport à l'équipe de Barcelone.
Donc on a enfin trouvé le secret pour gagner des Coupes d'Europe. C'est un petit aménagement de calendrier entre amis, mais tu parles pas de ceux qui sont défavorisés par ailleurs. Je pense notamment à Lorient qui va devoir enchaîner, qui va pas jouer pendant 10 jours, qui va avoir les pattes coupées parce que pour Lorient...
C'est vrai que ce soir, là, ils avaient...
Non, mais pour Lorient, une relégation en Ligue 2, c'est désastreux économiquement.
Mais c'est pas de la faute du calendrier,
Nabil.
Mais
tu joues pas ton championnat à la
30e
journée.
Mais si t'es tu dis quoi ?
Mais si, déjà, je suis pas l'orienté.
Non, mais si tu es l'orienté. T'es plus parisien que l'orienté, c'est sûr.
Je suis pas ni parisien, ni marseillais, ni lyonnais ou quoi que ce soit. Je dis juste que moi, je peux te rejoindre sur quelque chose. Le constat, c'est que quand tu regardes, soi-disant, on est dans les 5 grands championnats, les 4 autres, ils font pas ça. Le constat, c'est qu'on est un petit championnat.
C'est tout.
Ça, on le sait. Voilà. On est tous d'accord là-dessus. Et en faisant ce type de décision, on admet qu'on est bidon en Coupe d'Europe chaque année et qu'il faut aménager.
Donc c'est une rustine, mais il y en a certains qui payent les pots quand même au passage.
Mais sauf que Nabil, Lorient, quand ils sont en Ligue 1 et qu'ils prennent autant d'argent parce que les droits télé, ils sont hauts, c'est grâce à Lorient ou c'est le PSG et l'OM ?
Bien sûr.
Mais non, moi, je suis pas d'accord.
C'est grâce à qui ? C'est grâce à Lorient. Que la Ligue 1 vaut 700 millions d'euros.
Non, mais si Lorient ils sont là, c'est qu'ils méritent d'être là. Et c'est le Paris Saint-Germain.
Et s'ils sont relégables aujourd'hui, c'est pas à cause du calendrier, c'est parce qu'ils ont été bidons pendant des mois et des mois.
Oui,
et on va pas nous faire croire que c'est parce qu'ils enchaînent.
C'est pas une raison que dans la dernière ligne droite, on change les règles du jeu. Moi, ça me fait penser à un truc qui s'était passé l'année du Covid. Moi, ça m'avait choqué. C'était Amiens qui était passé en perte et profit. Parce que si c'est Lens, si les équipes qui sont concernées par leur relégation, c'est pas Lorient ou Metz. Mais si on se retrouvait, par exemple, avec un monument du football français, je pense que le débat il serait un peu plus sulfureux.
Pourquoi ?
C'est mon avis. Après, je me trompe peut-être.
Mais c'est un rapport de force, tu le sais très bien. Bien sûr que c'est un rapport de force. Mais là, pour une fois, que la LFP, et là, moi, Vincent Labrune, j'ai quand même parfois un petit peu taillé, mais là, sur le coup, il a tenté de redonner un peu quelques lettres de noblesse au football français, mais ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on est à la rue totale. Si on peut aider nos clubs à aller un petit peu plus loin en Coupe d'Europe, tu me dis Lorient. Mais Lorient, tu parlais des droits télé. Aujourd'hui, si tu veux vendre ton championnat, tu le vends comment? Grâce aux stars. Si on a des résultats en Coupe d'Europe, après tu pourras avoir un peu plus d'argent. Et cet argent, il va faire quoi? Le problème de l'intérêt du ruissellement, c'est qu'à un moment, ça va aussi dans des clubs comme Lorient.
Non, mais tu
ça
sais très bien comment on vend le championnat aujourd'hui et comment ça va se passer. Mais juste un élément, sur quoi s'est fondée cette histoire de fraîcheur physique là? Parce qu'il y en a qui te disent, moi je préfère pas arrêter non plus,
c'est vrai.
Enchaîner. Donc et moi j'aimerais avoir des études là-dessus. Non. Et si ça nous garantit une valeur ajoutée de 25% sur rendement, parce que je vais te dire un truc, moi le match je l'ai vu hier, le match de l'OM, ils peuvent s'arrêter 10 jours certains, parce qu'une conduite de balle, tu vas pas l'améliorer dans les 10 jours qui arrivent.
Pas sur 3 matchs,
Mes amis, la dernière intervention du président, du président Hervé Penaud, oui. J'avais une photo à vous montrer. On est mardi dans les tribunes du stade Montjuïc entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Juste à côté de Nasser Al-Khelaifi, on a Vincent Labrune, président de la Ligue. Un président qui a bien du mal à vendre ses droits télé. Il en espère 900 millions. Seul diffuseur pour l'instant encore en lice, c'est beIN Sport, puisque DAZN a jeté l'éponge. Est-ce l'intérêt général économique de ne pas froisser et de servir les intérêts du Paris Saint-Germain, les intérêts du Qatar, les intérêts de beIN?
Lille, ils n'étaient pas dans le coup, là Lille aussi, ils ont eu cette chance-là. Parce que mais Lille, c'est ni le Qatar, ni le Paris Saint-Germain.
Je ne savais pas que aussi l'OM et Lille.
Là, c'est surtout pour Paris.
Pas tous en même temps, mes petits. Mathieu.
C'est surtout pour défendre. Encore une fois, on l'a dit sur ce plateau. Plus on va aller loin, et plus on aura de chance, encore une fois, d'attirer le regard sur la Ligue 1. Maintenant qu'il y a quand même des grosses stars qui sont parties, on a quand même perdu un petit peu. Donc si on a la chance de pouvoir faire des finales européennes, voilà, autant favoriser ces clubs-là, c'est normal.
Pardon Mathieu, mais vous me dites, c'est vrai que la performance des clubs français pour valoriser un championnat, c'est intéressant, mais qu'est-ce qui valorise vraiment un championnat? Qu'est-ce qui fait que les télés se battent pour acheter un championnat? D'après nos nombreux débats, on nous dit toujours que c'est l'incertitude d'un championnat qui fait la valeur du produit. Nous, on a un produit où, en début de saison, on se dit « bon,
mais pas que ça.
C'est Paris. »
L'Allemagne, c'est la même chose. Et pourtant, ils ont toujours un attrait qui est au-delà de la Ligue 1. Et alors, pourtant, on sait dès le début qui va gagner le championnat.
Mais,
évidemment, à part cette
année. Mais dans ces cas-là, excusez-moi,
c'est un argument réversible qui n'est pas valable.
Si c'est pour les droits, si c'est pour mettre les meilleurs dans des conditions très confortables, mais qu'on l'assume jusqu'au bout... C'est-à-dire que dès novembre, par exemple, quand il y a les matchs de poule, si on peut leur arranger le calendrier tout de suite,
on l'a déjà fait en supprimant la Coupe de la Ligue. On a dit à chaque fois, voilà, c'est que le championnat, que c'était trop surchargé, etc. On l'a déjà supprimé ça. On l'a déjà supprimé ça. Donc voilà, là, ça, je trouve, ça va dans le bon sens. Il y a combien de fois pendant les 10 dernières années, des fois, on avait les débats sur les matchs qui étaient prévus le samedi ou le dimanche. On disait pourquoi on les fait pas jouer le vendredi, etc. Ça venait pinailler sur 2-3 jours. Là, on a la chance de pouvoir leur enlever quasiment une semaine. Alors, soyons honnêtement heureux de ça. Si on peut leur donner un maximum de chance.
Si c'est ça qui nous fait gagner des coupes d'Europe.
Mais on n'a pas dit que c'est. Non, mais, là, tu vas à un extrême. On n'a pas dit que c'était la recette pour gagner.
Si c'est ça qui va transformer le football français.
Non, là t'es de mauvaise foi parce que là tu fais un extrême. Là, c'est pas ce qu'on a dit.
Moi, il y a aucun souci.
Juste mes amis, séquence fact-checking parce qu'on a entendu pas mal de choses sur ces informations. De précision avec vous, mon cher Romain.
Oui, la première d'abord, c'est que Nice avait émis un avis défavorable quant au fait de voir ces matchs reportés. Sauf que le club, en fait, est simplement consulté. C'est le conseil d'administration de la Ligue qui a le dernier mot. Donc, à la limite, le fait que Nice ne voulait pas, ça ne change rien. Ça, c'est la première chose.
Deuxième autre point important.
Oui, en fait, on pensait qu'il était impossible de jouer un match reporté entre l'avant-dernière et la dernière journée de Ligue 1. Et là, c'est ce qui va se passer. Et en fait, on a contacté la Ligue qui nous a renvoyé vers l'article 528 de son règlement où il est écrit « En règle générale, on évite, en gros, de refixer les matchs entre l'avant-dernière et la dernière journée de Ligue 1. » Et la LFP a bien insisté là-dessus quand on les a contactés sur ce en règle générale, qui du coup acte que ce n'est pas impossible et que du coup il y a une petite faille entre guillemets dans cet article.
En fait, c'est pas une interdiction formelle, c'est une souplesse. Et commentaire spontané de Benjamin.
Donc ce texte ne sert à rien. C'est-à-dire que si on a envie de le sauter, on le saute. Quoi. En gros, en règle générale, justifie la suppression.
Bah, c'est super. Non, mais c'est comment
formuler il sert à quoi ce texte?
C'est comment formuler?
Attendez. Sachez que les clubs comme Nice se plaignent d'un changement d'acte. Ils ont totalement raison. On leur a fait un règlement qu'ils n'adaptent pas. Ouais. Sous prétexte qu'il y a une règle générale qui est citée. C'est scandaleux.
Juste pour rappeler à nos téléspectateurs, l'avant-dernière journée, la dernière journée, ce sont des journées donc, qui se déroulent, on va dire, pour les plus anciens, dans la même heure. Les 9 matchs se déroulent au même moment. Si les 2 dernières journées, et c'est une recommandation, donc pas une obligation, c'est la petite nuance que nous apprend donc la Ligue, si les 2 dernières journées de championnat doivent se jouer le même soir, au même moment, est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a une raison?
Si,
j'aimerais que vous
m'équitez. Pour éviter l'équité.
Pour éviter l'Allemagne-Autriche, quoi.
Bien sûr.
Bien sûr.
Donc, mais vous savez, un grand entraîneur qui a quitté notre championnat il y a peu, d'ailleurs, m'a dit, mais tu sais, Hervé, on sait très bien que les 5 dernières journées, il se passe un peu n'importe quoi.
Non, donc, mais. Parce que même. J'ai pas compris, là.
Il y a des arrangements entre amis, des gens qui se connaissent, des joueurs qui se connaissent.
C'est bien de faire un match.
Voilà, de temps en temps, ils peuvent s'entraider, on va dire ça. C'était ça dans les années 90.
T'as plus de calculs à faire, plus t'arrives sur la fin et plus.
Les gens se connaissent.
T'es dans les calculs, donc du coup.
C'est un calcul, c'est normal.
Attendez,
pour nos téléspectateurs, je veux dire, c'est un ajustement. Quand vous me dites un arrangement,
oui,
c'est.
Voilà, on va dire.
Ça t'arrange un match nul.
Enfin, exactement. Les gens se comprennent, entre guillemets.
Mais ça peut arriver. Moi, c'est juste par rapport à ces histoires de calendrier. Parce que toute l'année, on entend ceux qui se plaignent de jouer tous les 3 jours. Ceux qui aimeraient avoir plus de coupures. Donc quand il y a des coupures, ça va pas parce qu'ils ont plus de rythme. Quand ils jouent tous les 3 jours, ça va pas parce qu'il y a trop de matchs. Donc en fait, ces histoires de calendrier, la finalité, c'est que tout le monde se plaint constamment. Tout le monde est en train de dire c'est bénéfique, pas bénéfique, etc. Et au final, si tu prends sur une saison, eh ben ça se lisse totalement. Donc en fait, on est en train de nous faire dire, de relier plein de trucs qui sont la Ligue vend pas, donc ils sont en train de faire d'une fleur au Paris Saint-Germain, sauf que Nasser Khelaïfi, il a pas Lille et il a pas l'Olympique de Marseille. On mélange tout et on veut faire dire que parce qu'il faut faire plaisir au PSG, on est en train de fausser la fin du championnat.
Là, votre argument, vous l'utilisez, est-ce que vous l'utilisez pour les erreurs d'arbitrage? Parce que ça, c'est un argument en disant, non, vous savez, les erreurs d'arbitrage à la fin du championnat, mais oui. Ça s'équilibre.
Mais par exemple, quand il y a des débordements dans les tribunes, que le match est arrêté, et qui doit être rejoué. Si des supporters se comportent mal, le calendrier est faussé. Mais si c'est comparable, et dans ce cas-là, Nice va dire c'est embêtant tout ça parce qu'il y a un huis clos à Lyon.
Il y a eu des intempéries, ils ont décalé le match, c'est la même chose. Mais non, ça n'a rien à voir.
C'est un choix pour favoriser nos clubs français dans des compétitions où on est ridicule depuis des années. Donc évidemment que c'est pas idéal. Je suis pas en train de te dire que c'est formidable.
Mais on n'est pas présent.
On est quand même souvent ridicule.
Non, mais PSG a fait déjà une demi-finale, fait une finale, c'est pas ce qu'on appelle ridicule.
Deux victoires. Mais Paris, ils ont pas l'effectif, effectivement. Ils ont pas de banc, ils peuvent pas. Et Marseille, c'est pareil, ils ont des petits salaires, ils tirent sur la ficelle.
Les mecs,
je t'ai pris l'exemple de l'Atalanta Bergame.
Non, mais je vais répondre juste à ton argument sur Paris. Paris, par exemple, c'est pas le fait de jouer avec une équipe B, ils peuvent jouer avec une deuxième équipe. En revanche, est-ce que tu penses que Luis Enrique, d'ailleurs, il l'a dit, il a préparé ce match retour sur une semaine, ce qui est plus du tout la même chose qu'à d'avoir un match entre avec une préparation de match.
Mais c'est la tête, Hervé, on n'en parle jamais, on parle que du corps. Mais pour les clubs français, d'avoir l'esprit libéré, c'est fondamental.
Liverpool, quand joue la Coupe du Monde des clubs, il s'adapte.
Mon cher Benjamin, je vais citer votre confrère qui est souvent assis ici, c'est Dominique Sévrac, qui s'est intéressé. Bah oui, qui est toujours plutôt en progrès, il faut le dire.
Il faut lui mettre un peu la pression à Dominique.
Il s'est intéressé finalement, faire une pause en championnat, est-ce mieux pour gagner un match de Coupe d'Europe? C'était là le week-end dernier, juste avant le match retour de son voyage de Paris au Barça. Alors samedi, donc article de Dominique, il a interrogé 2 préparateurs physiques. Et ce qui est drôle, c'est 2 préparateurs physiques. Eh ben, vous savez, vous mettez une maladie avec 2 spécialistes, on l'a eu pendant le Covid, ils sont pas d'accord. Bah, c'est la même chose. On a Robert Duverne. C'est un inconvénient pour moi de ne pas jouer. Il fallait jouer. Quand on vient de perdre un match, c'était le cas au match aller, donc pour Paris, on aime se changer les idées, se rassurer, retrouver des repères. On ira vous voir après, Mathieu. Attendez. Donc, faut jouer. Là, on a Olivier Rodriguez, qui est notre pensionnaire, qu'on salue. Ce genre de défaite n'est pas neutre, elle impacte et fait mal, les Parisiens ont besoin de récupérer, c'est bien, recharger les accus, l'entraîneur va pouvoir bosser une semaine d'entraînement, c'est ce que vous venez de dire, c'est pour ça que je suis intervenu, Hervé. Il ne va pas trop la charger athlétiquement, ce qui est important, c'est qu'il va avoir le temps de mettre en place tactiquement beaucoup de choses pour qu'on travaille à Barcelone. Pour moi, le timing est parfait. C'est quoi votre religion? En tant que joueur, vous venez de perdre un match, il y a un match très important et tout ça. Enfin voilà, c'est plutôt l'école Duverne ou l'école Rodriguez. Voilà.
Non, mais ce qui est bien, c'est que sur une semaine, c'est t'as le temps de préparer un match. Si tu joues entre, malgré tout, comme on dit, il y a là c'est l'aspect psychologique et ce que tu prépares à ton match entre. Donc tu dois t'impliquer malgré tout, même ceux qui jouent pas, même si on va dire on change l'équipe, les autres ils viennent quand même, ils se déplacent, ils sont avec, ils restent pas à la maison, etc.
Okay.
Donc moi je pense que quand même sur une semaine c'est bien de laisser. Si c'est sur 15 jours, ok d'accord, là tu peux perdre du rythme. Au-delà, c'est. Mais sur une semaine.
Bon, bah, ça va. Alors, pour Lorient, c'est 10 jours.
Une session de 15 jours, ouais, c'est impeccable.
15 jours,
faire une fin de saison.
C'est parfait pour eux.
Ils sont en position optimale.
Mais moi, ça me fait penser.
Ils ont fait quoi, Nice, ce soir-là?
Ben,
3-0.
Ah, bah, tiens, c'est match.
Alors, ils ont quand même des objectifs.
Non, mais ils n'avaient pas de rythme, sinon ils avaient gagné. Ils gagneraient 7-0.
Ah, ouais,
mais moi, ça me fait penser à la Formule 1. C'est-à-dire qu'il reste 3 grands prix. Et subitement, on change les règles. Il y a un nouvel aileron qui vient d'arriver. Et ceux qui ont le droit, c'est ceux qui ont les baquets 1 et 2, qui ont les plus gros budgets. Et les autres, bah, c'est pas grave. Et alors, ok pour la logique de la locomotive, de l'image du football français. Mais moi, ce qui compte pour moi, c'est pas un championnat à 2 ou 3 vitesses avec une hégémonie. Ce qui m'intéresse, c'est que Lorient, Metz, les autres clubs, bah, eux aussi, leur niveau, il augmente. Et là, on a un championnat plus fort.
Est-ce que tu ne penses pas
qu'au plus fort? C'est pas, c'est pas mes valeurs.
Je pense pas que s'il y a plus d'argent qui est injecté dans le championnat de France, donc plus d'argent pour les clubs.
C'est pas le problème de l'argent.
Non,
c'est le problème. C'est le problème de l'utilisation de cet argent.
Ah bah alors dans ces cas-là, dis-le. Eh bah dis-le dans ces cas-là où.
C'est ce que j'ai expliqué avec l'Atalanta Bergame, qui a beaucoup moins d'argent que beaucoup de clubs français et qui depuis 4 ans est bien meilleur en Europe.
Mais rassure-moi, si Lorient ils en sont là, c'est à cause du calendrier ou c'est à cause d'eux? Parce qu'ils en ont eu de l'argent, Lorient.
Oui, mais c'est pas une raison.
Mais on s'en sort pas si ensuite. Ça veut
dire que ça n'a pas un impact direct. C'est ça ce qu'il veut dire.
C'est pas parce que Marseille, Paris et Lyon ont plus d'argent que Lorient qui sont favorisés. C'est juste que Lille, Marseille et le Paris Saint-Germain font des parcours.
Ouais, mais le préparateur physique de Lorient n'a pas prévu ça, lui.
Nabil, pourquoi tu dis ça au budget? Réponds
à Je dis pas ça au budget.
Tu dis l'important, c'est que Lorient qui a pas de budget puisse s'en sortir. C'est l'exemple que as donné à Hervé Penaud.
Ce qui me fatigue, c'est
l'iniquité. Au président.
Non, vous appelez Hervé Penaud.
Oui, non, mais c'est le président.
Moi, je suis pas contre le football français. C'est peut-être pas très populaire ce que je dis. Ce que je trouve anormal, c'est qu'il y a une forme d'iniquité. Et dans une compétition, on change pas les règles en cours de route. Et pour moi, là, on les change en cours de route. Après, t'as le droit de pas être d'accord.
Reims, finir sur Brest, OM et Rennes. 3 matchs qui sont quand même très compliqués.
Et est-ce que t'es sûr? Mais cet enchaînement, ils seront pas capables de bien le gérer.
Mais ça, on ne le saura pas ce soir.
Non.
Mais pour le coup,
tu mets
une problématique supplémentaire.
Mais t'es sur un championnat, t'avais 30 journées avant aussi pour mieux faire. En fait, tu peux pas tout dire, ok.
On rajoute quelque chose.
Ils perdent le championnat sur 3 matchs.
Benjamin et Nabil, vous êtes bien battus, mais vous inclinez. Le tube ce soir. C'est Castaldi de Séville, partir un jour, non, vous allez rester.
Ça arrive, donc c'est bien.
Je ne crois même pas qu'il y ait eu un débat, en fait.
Comment?
Vu ce qu'on vous a mis, c'était même pas un débat.
Ça reste quand même assez faible.
43-57, vous avez eu des triomphes.
J'ai connu une fois une défaite à 6 ou 7.
Moi, j'ai eu que 23 secondes et puis 6 minutes après.
Juste un point sur la 30e journée qui, pour l'instant, n'est pas faussée. Nice-Lorient, deux équipes qui sont impactées par ces reports. Nice s'est imposé tranquillement 3-0. Avec un joli contrôle, flipper des 24 pour le troisième but, vous allez admirer.
Exactement, les Aiglons, on va dire, sont moins sensibles au report de calendrier puisqu'ils se sont imposés 3 buts à 0 ce soir. Morgan Sanson qui récupère le ballon et qui frappe au premier poteau dans la lucarne, ça fait 1-0 pour les Niçois, puis 2-0, le ballon qui revient sur Boga et la frappe de Boga qui s'est touré. Ne peut pas empêcher de rentrer au fond. Elle était peut-être même pas cadrée. Faudrait bien revoir le ralenti. Et Guessant, le contrôle un petit peu baroque, mais à l'arrivée, ça fait 3-0 pour les Aiglons qui sont donc 5e à 2 points du top 4.
Mathieu, il y a un contrôle ou pas, là, Devan? Il y a un truc ou pas? Pas tout à fait.
Ce quand même.
Hein? Bon, ok.
Mais il se retourne vite.
On retiendra le but.
Ok.
Il en faut de la réussite pour un attaquant.
Le Bayern veut Zizou.
Ah
ouais, c'est le feuilleton de la journée. Feuilleton parti d'Espagne, El Mundo Deportivo. 14h38, article sur le site du quotidien catalan qui met le feu aux poudres. Zidane à un pas du Bayern. À l'équipe, on s'active. Loïc Tanzi et François Verdonnet confirment l'info du Mundo Deportivo et ajoutent ceci. Le technicien se sent prêt à repartir avec un club. Tout en précisant que Zinedine Zidane regarderait attentivement aussi la situation à Manchester United où Eric Ten Hag est, on va dire, un peu ballotté et menacé. Zidane dragué par le Bayern et par Manchester United, Zizou doit-il foncer au Bayern? Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. On y va. Ils ne sont jamais d'accord. C'est bon. Joe Nabil.
Ah oui, d'accord. Je découvre.
On va laisser commencer Jo parce que j'ai l'impression que vous êtes parmi votre triomphe dans ce dernier super duel. Ah. Zizou doit-il foncer au Bayern? Le temps de ce débat, je vous fais le conseiller spécial de Zinedine Zidane. Nabil et Jo, vous lui dites vas-y, oublie que t'as pas mal de chance et...
Oui, parce que je trouve que la situation de Manchester United est beaucoup plus compliquée, il y a tout un effectif à reconstruire, un championnat qui est beaucoup plus relevé, alors que le Bayern, même si c'est vrai qu'il y a eu quelques problèmes structurels récemment avec ce qui s'est passé avec Salih Mezic, le renvoi de Julian Nagelsmann, le championnat est moins concurrentiel, c'est plus facile quand on est au Bayern Munich de s'imposer et d'être champion. Donc je pense que Zidane, dans la gestion d'un club familial, comme il a pu le faire avec le Real Madrid, c'est un management qui va un peu plus lui plaire et lui convenir plutôt que le bazar de Manchester United.
Ok, à vous de jouer mon cher Nabil.
Plus facile, ça va pas avec Zidane, c'est l'exigence, c'est trois ligues des champions et le top du top c'est la première ligue, les meilleurs entraîneurs ils sont en première ligue. Le Bayern Munich, si c'est pour gagner 12 titres sur 13, bon bah qu'il aille directement à la Juve, il sera encore dans une ambiance familiale et plus confortable qu'il connaît. Oui, c'est un bourbier, oui, mais je veux voir un Zidane bâtisseur, je veux voir des matchs de Ligue des Champions tous les week-ends. Je ne veux pas attendre le Bayern le mardi et le mercredi seulement avec Zinedine Zidane. Le football, c'est la première ligue et Zidane, c'est le football. Donc, il doit aller en première ligue. Et ça, c'est très égoïste et c'est ce que je ressens et c'est ce que j'ai envie.
Ok, on réglait comme une horloge. Vous avez 7 dixièmes, mon cher Giovanni. Avez-vous un argument ou personnel? Merci.
Personnel, merci.
Merci. Grande soirée casino.
Famille Castaldi. Là, t'es un peu meilleur, mais tu vas perdre quand même, mais c'était pas mal.
Le principal, c'est les convictions.
Non. Vous faites un numéro. Non, vous faites un truc incroyable. Les 30 secondes sont calées et derrière ça papote. Et derrière ça papote. Je suis obligé. Regardez. Voilà.
Vous savez que Zidane.
Non, c'est le troisième. Non, c'est. Vous réclamiez pas un carton, Mathieu?
Non, pas du tout.
Non.
Moi, c'est l'impression que j'ai eue. Mais bon, après,
C'est une impression.
Ouais.
Moi aussi, j'ai eu le sentiment cette impression. Voilà. Mathieu, bienvenue au club. On ne réclame jamais un petit carton comme ça. C'est votre premier avertissement. Prenez-le comme un baptême. Et Zizou doit-il foncer au Bayern? C'est oui pour Giovanni. Oui. C'est non pour Nabil. On fonce ou pas? Qu'est-ce qu'il y a?
Les deux, non, mais des deux côtés, ils ont eu des bons arguments, mais j'aurais aimé entendre un argument, moi, que j'ai pas entendu, malheureusement, mais c'est rien que la Ligue des Champions. Tu aurais pu dire que le Bayern, au moins, t'as la certitude d'être en Ligue des Champions. Lui, la Ligue des Champions, c'est aussi un peu son moteur. Oui, mais ça, je l'aurais aimé l'entendre, j'ai pas entendu.
Même si c'était pour vous laisser briller, président.
D'accord. Donc, ça fait qu'au final, je vais mettre
un match nul.
Parce qu'en fait, Zidane, Zidane, il ira où il a envie d'aller. Moi, dans mon esprit, si tu m'avais donné cet argument-là, je t'aurais dit, allez, je pencherais un petit peu plus du côté Bayern, parce que j'ai pas aimé l'argument de dire, comme ça, un championnat plutôt facile, c'est tellement facile qu'il va gagner.
Il a trouvé moi, je crois, de l'Everton. Et qu'il aille au port. Qu'il vient en Ligue 1, alors, au PSG.
Et Manchester United, mine de rien, c'est vrai que c'est compliqué, c'est un peu le bordel, mais surtout, c'est qu'il va se retrouver face à une concurrence qu'il a jamais connu d'une certaine manière.
C'est excitant.
Parce que là, il y a le côté effectivement excitant, mais aussi avec le côté casse-gueule. C'est-à-dire que quand vous êtes à Manchester United, vous n'êtes pas sûr de jouer les premiers rôles, même en Angleterre. Donc c'est compliqué aussi pour lui.
Durant ce duel, Giovanni Castaldi nous a présenté le Bayern comme un club familial. Je ne sais pas comment...
Plutôt, j'ai dit. Déjà, il y avait une nuance et j'ai précisé qu'il y avait eu du bazar récemment.
Plutôt familial. Récemment, c'est quand à peu près?
Depuis 70.
Non, mais là, depuis... avec Salih Mezic et Nagelsmann, c'était le bordel.
Bon, moi, je date le petit bazar pour un coach qui débarque. Depuis le départ de Pep Guardiola en 2016, le Bayern a usé 7 entraîneurs. C'est une famille, mais une famille qui souvent se trahit. Vous êtes le conseiller de Zidane, vous avez ce truc-là en disant, tiens, Zizou, il y a le Bayern, mais pour un coach, ça vire sévère. Est-ce que ça, c'est un paramètre à prendre en compte? Et Mathieu, et Benji, les gars.
Moi, c'est un argument positif, parce que récemment, le Bayern, justement, s'est rebâti en interne avec des personnes qui sont censées avoir du potentiel. Je pense à Max Eberl, le directeur sportif, qui a quand même des compétences. Ils ont pris la team un peu Leipzig, qui a quand même fait des choses ces dernières années.
Et donc, ils veulent rendre nique.
Il y a une histoire.
Ils veulent rendre nique. Vous voyez, entre la...
Surtout Nagelsmann, au départ.
Déjà, même pas Zidane, et vous voulez l'envoyer là-bas.
Mais moi, après, ce que j'aime bien, et je l'avais déjà dit dans une émission, j'aime bien l'alliage français-Bayern.
C'est aussi un boys band.
Il y a une histoire entre les Français et le Bayern depuis maintenant un certain temps. Je ne vais pas tous les citer, mais les Arrasous, Sagnol, Ribéry, voilà, ils en passent. Zidane, il arriverait dans un contexte dans lequel déjà les Français ont bâti quelque chose. Ensuite, il y a beaucoup de francophones là-bas. Donc c'est déjà aussi un point supplémentaire et j'ai envie de voir ce que ça peut donner dans une structure comme celle-ci. Et effectivement, tu as raison Hervé, qui joue quand même la Champions League tous les ans, qui est encore en demi-finale et dans laquelle il arriverait presque en héros, même si Tourelle remporte la Champions. Ça s'est tellement mal terminé ces derniers mois que je me dis que si Zidane il arrive,
ce serait le taulier, après tant d'années de galère, il mettrait enfin un coach avec une envergure digne de ce grand club.
Giovanni, tu l'as entendu un peu, non? Ouais. Si tu m'avais parlé comme ça, t'aurais eu le point.
Non, mais désolé, je vais essayer de m'améliorer.
Zidane au Bayern. Le Bayern veut Zizou, plutôt. Ah. Le Bayern veut Zizou. Ah. On en parle avec le prochain conseiller de Zinedine Zidane, Mathieu de Séville. A tout de suite. Vous êtes bien, vous êtes tranquille, vous êtes chez vous, vous regardez l'équipe du soir, c'est vendredi soir. En plus, on a plein d'informations à vous communiquer. Information l'équipe confirmée, enfin une information confirmée par l'équipe du Mundo Deportivo. Ok, c'est vendredi, je suis un peu fatigué. Zidane est dragué par le Bayern et Manchester United. Zizou doit-il foncer au Bayern? Joe dit oui, Nabil dit non. Le président a tranché en faveur de Joe, même s'il avait donné les mauvais arguments, des arguments qu'avait donné Benjamin Quarez. Le dernier conseiller n'a pas parlé, Mathieu de Séville. Il doit foncer, oui ou non, au Bayern, à Manchester, rester chez lui et tout ça.
Non, mais il n'y a pas de conseil. Je pense qu'en amoureux du foot, on aimerait le voir se mettre en danger. Il a été au Real, il a tout gagné là-bas, mais il y aura toujours... les petites mauvaises langues qui diront qu'il était au Real malgré tout. Quant à Cristiano, Benzema, Modric, Kroos, Prime, quasiment, qui te règle énormément de problèmes tactiques sur le terrain. On a souvent vanté ses qualités de management, peut-être un peu moins de tactique. Là, en étant à Manchester, il n'aura pas ses joueurs pour régler ses problèmes tactiquement. Donc on va vraiment voir, je pense, ses vraies qualités tactiques au-delà du management. Donc je pense que j'aimerais qu'il se mette en danger et qu'il aille à Manchester plutôt qu'à Bayern.
Je rebondis sur votre propos et le dernier propos de Benjamin Quarez juste avant la pub, c'était pour les 50 ans de Zidane le 23 juin 2022. L'idée de l'emmener à Manchester United avait été évoquée dans une interview faite par François Vernet. Quand on me dit « tu veux aller à Manchester », je comprends l'anglais, répond Zidane, mais je ne le maîtrise pas totalement. Je sais qu'il y a des entraîneurs qui vont dans des clubs sans parler la langue, mais moi, je fonctionne autrement. C'est pour ça que je ne peux pas aller n'importe où. Voilà, vous êtes le conseiller, ou en tout cas, voilà, un admirateur, et vous dites, voilà,
c'est tout ce qu'il a fait allemand LV2, non ?
Mais non plus, non plus.
C'est pour ça, c'est pas un argument.
Ni Bayern, ni Manchester.
Non, mais pardon,
il reste l'OM.
Je ne sais pas si c'est pas un argument, mais est-ce que Zidane, son job, c'est pas entraîneur ? Non. Son job, c'est entraîneur du Real.
Non, mais
entraîneur éventuellement de la Juve,
transmettre des
ou entraîneur
émotions.
Des Bleus.
Non, mais il estime qu'une part de son travail, c'est transmettre des émotions. Et les émotions, ça passe par la langue, quoi, et par la
manière de... des émotions, c'est son management. Son management, et je suis d'accord avec toi, ça se fait par le dialogue.
Si quelqu'un te fait un discours, si quelqu'un te vous met en rond, là, à la mi-temps, et vous fait un discours, et il y a un traducteur à côté,
je suis d'accord.
Pas de la même manière.
Je suis d'accord avec toi. D'accord.
Ouais, Nabil, pardon, mais il parle pas l'anglais, il parle pas allemand, est-ce que c'est rédhibitoire?
Giovanni, c'est rédhibitoire. Après, ça, l'allemand, l'anglais, ça s'apprend quand même s'il avait vraiment envie d'aller.
L'anglais plus que l'allemand.
Ma femme est allemande, c'est très compliqué.
Mais c'est facile de donner des leçons. Moi, il y a juste un truc, et c'est là où je ne suis pas d'accord.
Il ne vous donne pas de leçons, il vous donne une précision.
Oui, c'est important.
Sa femme est allemande et lui parle en français.
Non, non, mais je dis c'est facile.
Je l'ai converti au français plus que moi à l'allemand, c'est juste pour dire.
Il y a un truc où je ne suis pas du tout d'accord avec Nabil dans l'argumentaire, c'est la notion de mise en danger. Moi, je pense que Zidane, il a pas envie de
la mise en danger, c'était Mathieu. Mais si vous voulez pas l'affronter, c'est pas grave.
Non, mais Nabil aussi.
Ouais, il a dit, on a envie de vraiment du
le challenge.
Moi, je dis que c'est un immense défi. C'est pas exactement la même chose.
Moi, je pense qu'il a envie d'aller dans un club où il est sûr qu'il peut gagner.
Bah, qu'il aille à la Juve, alors.
Ouais. La Juve, non, parce qu'il y a l'Inter, etc. Et je pense que quand t'as l'équipe de France et que t'as une génération comme tu as là, t'as beaucoup plus de chances de faire constamment des derniers carrés. Et je retire pas du mérite à Didier Deschamps, qui est un formidable sélectionneur. Quand tu es en Allemagne et que tu es au Bayern, même si là le Bayer Leverkusen fait une saison fantastique, tu as quand même 500 fois plus de chances de gagner. Donc entre les deux, selon le prof de langue qui choisit, allemand ou anglais, je pense que par rapport à la construction de sa carrière de coach, il ira plus facilement au Bayern.
Mais Mathieu nous dit que ça serait le moment de prendre des risques. Et vous vous dites...
Mais je crois pas qu'il a envie de prendre des risques, il a tout gagné, il est au sommet. Non, mais votre qu'est-ce qui va s'embêter à prendre des risques?
D'autant plus, il a quoi à perdre?
Il a gagné contre Real, Mathieu.
De quoi
ce que tu as évoqué, c'est que ça lui revient en boomerang en disant, de toute façon, bah, quand il a pas un effectif taillé pour gagner, et ben en fait, c'est pas un grand coach, etc.
S'il va au Bayern, il y aura toujours cette incertitude.
Je sais pas, lui, il s'en fout, il veut rester au sommet.
Ça te rappelle rien?
De quoi? En France, en tout cas.
Guardiola, qu'est-ce qu'on disait de Guardiola? C'est l'homme qui a gagné la Ligue des Champions avec Messi. Et il disait, il a beau aller au Bayern, il a beau aller à City, et l'année dernière, enfin, il a gagné la Ligue des Champions. Il y a la sensation, effectivement, qu'il veut peut-être pas se mettre dans ce danger-là. Ce qu'il a dit dans l'interview, c'est très intéressant. Parce que ça veut dire, en gros, je peux aller entraîner aujourd'hui, à moins qu'il ait pris des cours, on ne sait pas, mais s'il n'a pas pris des cours, aujourd'hui, il peut aller en France, en Espagne et en Italie. C'est tout. Voilà. Et c'est là où c'est assez drôle, parce qu'en fait, il me rappelle très Didier Deschamps, tu parlais de Deschamps. Deschamps, il disait souvent, il y a des discussions à une certaine époque, il disait, moi, j'entraîne pas pour entraîner, j'entraîne pour gagner. Donc, ce qu'il voulait, c'était des équipes gagner. C'est l'antithèse, pour moi, du symbolique Benitez. Benitez, quand il est au Real Madrid, il est viré, qu'est-ce qu'il fait? Il est capable de rebondir en D2 anglaise, ça lui pose aucun problème. Parce que lui, il a besoin de se lever le matin, mettre ses plots, penser son jeu, son schéma tactique, etc. Zidane, ça fait 3 ans qu'il n'entraîne plus.
Il entraîne pour sa légende, alors?
Alors, après, il entraîne simplement pour gagner des matchs. Pour gagner, donc, effectivement, il faut aller au top du top, il n'a pas d'autre chose.
Juste pour revenir à la partie LV2, Mathieu, je me souviens que Pep Guardiola, qui signe alors qu'il est en année sabbatique au Bayern, Pep Guardiola avait, un peu plus tard, il nous avait dit, il avait failli renoncer à coacher au Bayern. La raison, l'apprentissage de l'allemand était pour lui une horreur difficile. C'était quelque chose, voilà, en disant, mais je ne vais pas être au niveau pour communiquer avec mon équipe, pour parler. C'était l'un des arguments que vous avez pas forcément accepté, mais c'est un argument, voilà. Zidane qui nous parle de Manchester, Guardiola qui se dit, mais à un moment, moi, je vais rappeler le Bayern parce que l'allemand, j'ai pas toutes les facilités, je vais pas avoir toutes les subtilités. Pour parler, pour convaincre, pour comprendre, pour être compris.
Il y allait quand même.
Pour ressentir les gens aussi.
Il y est allé.
Mais qu'il se pose la question, même que Zidane se pose la question. Parce que c'est vrai, c'est la première chose à laquelle tu penses. Surtout lui qui a beaucoup d'impact psychologique sur les joueurs, dans les causeries, dans la manière de s'exprimer. Son regard porte beaucoup à Zidane. C'est déjà important. Mais c'est vrai qu'il a besoin. Donc à un moment, vous dites, est-ce que je suis capable aujourd'hui d'apprendre une nouvelle langue, surtout une langue qui est réputé plutôt compliqué comme l'allemand. C'est vrai que c'est une interrogation qu'il est obligé d'avoir.
Votre cahier des charges, et que je peux comprendre, il correspond à la Juve. Non, mais là, dans tout ce que vous dites, c'est si tu vas pas en première ligue, si tu vas pas en première ligue pour voilà les raisons que moi j'ai données, mais je peux comprendre qu'il n'y aille pas. Mais dans ces cas-là, c'est pas le choix naturel, c'est pas
la Juve. Mais seulement la Juve. Oui, mais seulement la Juve n'est plus au top.
Exactement.
Après, il faut voir tous les paramètres, mais si tu fais venir Zidane, c'est que.
Mais le paramètre numéro un, c'est gagner.
Bah déjà, c'est Allegri, il faut qu'il. Déjà, en fin de saison, il s'en aille, quoi.
Mais le paramètre numéro un, c'est gagner.
Moi, j'ai discuté en coulisses ici avec des gens qui connaissent bien le football italien avant de venir.
Non, surtout pas de nom.
Roberto Notariani, par exemple, voilà. Et je lui dis, mais attends, la Juve, il y a de l'argent ou il n'y a pas d'argent? Il paraît qu'il n'y a pas d'argent, on me dit. Parce que j'avais discuté avec vos équipes d'édition juste avant en leur disant. Mais
les équipes éditoriales.
C'est un peu long, cette intervention.
Les équipes éditoriales.
Bon. Il n'y a pas l'argent à la Juve.
Et j'ai demandé, mais Roberto m'a dit, attention, parce que la Juve, ils sont capables de... j'ai tendance à le croire.
D'accord. Oui, enfin, donc ils sont capables de sortir un petit billet.
Ils sont blindés.
C'est quoi la finalité?
La finalité, c'est que moi, honnêtement, je vais être direct.
Soyez plus clair.
Moi, à sa place, je préfère prendre la Juve que prendre le Bayern. Pourquoi? Parce que la Juve, qu'on le veuille ou non, la Serie A, ça nous parle quand même. C'est l'Inter, c'est le Milan AC, c'est la Roma, c'est Naples. Alors que du côté du Bayern, mais ça c'est mon tropisme peut-être et mes croyances, et je me trompe peut-être parce qu'ils ont deux clubs dans le dernier carré. Honnêtement, sortie de Bayern, Dortmund, Bayern Leverkusen et de temps en temps Leipzig qui surperforme. Bah, honnêtement, Bayern Energie Cottbus ou Bayern Grootfurt, je regarderai pas.
C'est bien parce que toujours discours sur les petits clubs de Ligue 1, tu viens de l'anéantir avec ton mépris pour la Ligue 1.
C'est formidable.
Oui, mais pas du tout. Pas du tout parce que
là,
attends, je termine. Le dernier mot.
Pourquoi?
Parce que j'aime les Ligue 1, j'aime la France.
Ah,
suis français. Justement pour prolonger et finir ce peut-être ce débat, mais c'est que faut jamais oublier une chose, c'est qu'on a toujours évoqué l'intérêt surtout majeur de Zidane pour les Bleus.
Justement, Zidane a longtemps voulu coacher les Bleus,
oui, toujours,
mais la place est prise donc par Didier Deschamps. Du coup, la réflexion de Zinedine Zidane a évolué, c'est ce que nous a annoncé Loïc Tanzi aujourd'hui sur ce plateau dans l'équipe de Greg. Extrait.
Oui, on en avait parlé ici en disant que le Bayern n'était pas son premier choix, voire même pas le second. Mais c'est vrai que là, il commence à se dire que 3 ans sans club, ça, c'est un peu trop. Il a envie de revenir la saison prochaine sur un banc européen. Et le Bayern a très envie de voir Zidane sur son banc. Donc il n'est pas seul. Il y a Rangnick, notamment le sélectionneur de l'Autriche. C'est les deux priorités après Nagelsmann, parce que Nagelsmann devait revenir.
Expliquez l'histoire, parce que Nagelsmann devait revenir.
Ah, il avait donné son accord pour revenir au Bayern, sauf qu'il a décidé hier de rester finalement. Alors est-ce que finalement il voulait vraiment revenir au Bayern, on ne le sait pas, mais il a décidé de rester sélectionneur de l'Allemagne et de prolonger jusqu'à la Coupe du Monde 2026.
Ouais, il nous le dit Loïc, hein. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas coaché, Zidane. Il nous le dit, le technicien se sent prêt à repartir désormais avec un club, donc les Bleus, bon, pour l'instant il le met un peu entre parenthèses, cette ambition. Est-ce qu'il revient pour des mauvaises raisons? Parce que là, voilà, on a commencé à parler de Zidane, on a commencé à parler des grands clubs, avec des institutions, mais...
Non, mais je ne pense pas, parce que...
Au Bayern, c'est différent, quand même.
Non, mais je pense que, pour le coup, Zidane, il a eu, quand il part au sommet, qu'il fait une pause avant de revenir au Real, je pense que c'est quelqu'un qui a tellement atteint des sommets qu'il a pu, entre guillemets, il a tué le game dans le foot. Ah, je pense qu'il s'écoute énormément. Je pense qu'il y a effectivement la fenêtre ratée avec l'équipe de France, mais c'est aussi un manque qu'il doit ressentir. C'est quelqu'un qui a un quotidien très heureux, qui a une vie familiale... Oui, il est hyper épanoui dans sa vie personnelle.
Mais pourquoi là, moi j'ai l'impression qu'il ouvre la porte, que ça fait 3 ans.
Mais parce que ça lui manque, parce qu'il pensait revenir par l'équipe de France, et que ça ne s'est pas fait, et que je pense que le terrain lui manque et qu'il se laisse la réflexion en disant « s'il y a un super projet où je peux gagner, parce que je souscris à 200% à ce qu'a dit Hervé... »
Président.
Président.
J'aimerais que les choses soient mises en place de temps en temps.
Si vous voulez, président. Je pense qu'il ne se lève pas pour finir deuxième, ça c'est sûr. Donc s'il y a un projet où il est sûr d'être dans les bonnes dispositions avec un club sérieux qui a de l'argent, qui a un effectif et qui peut gagner rapidement.
L'OM, par exemple.
Mais est-ce que, Giovanni, si l'Euro se passait très mal pour Didier Deschamps, le fait qu'il y ait eu un changement de président de la fédération, est-ce que ça pourrait fragiliser sa position?
J'y crois pas un seul instant. Je pense que Didier Deschamps est maître de son destin. Et que...
Après, ça dépendra aussi de l'Euro, même s'il a carte blanche qu'en 2026.
Ouais. S'il fait quart de finale ou demi-finale, M. Diallo,
il sera là jusqu'en 2026. Non, je parlais d'une élimination plus précoce. Imaginons qu'il sorte pas de la poule. Est-ce qu'il y aura une possibilité pour Zidane? Parce que j'imagine que Zidane prenne un projet. Imagine que Zidane décide de prendre le Bayern, le Manchester, ou la Juve, ou je ne sais pas quelle équipe. Et puis, d'un seul coup, on s'aperçoit que Didier Deschamps se retrouve un petit peu sur la touche parce qu'il ne réussit pas son Euro. Là, il se dira, putain, c'est un mauvais timing. Chaque fois, j'ai raté.
Il peut mettre une clause. Non, mais il n'y aura aucun club qui va accepter cette clause-là. Et derrière, tu te retrouves en galère en mois d'août sans avoir anticipé.
Attention, les amis, juste, ça fait une bonne vingtaine de minutes qu'on évoque ça. Mais franchement, Zidane, dans les conférences de presse, parle allemand ou anglais, tout ça, Manchester ou Bayern, vous y croyez?
Il est obligé de parler la langue au départ en conférence de presse. Alors, on a quand même l'exemple ici, un Français de Paris Saint-Germain. D'un entraîneur qui ne parle pas un mot de français en conférence de presse. On a nos casques et voilà.
Non, mais en conférence de presse, ça, c'est pas trop grave.
Voilà, mais pardon, mais
vraiment plus
quand,
dans le vestiaire.
Oui, mais depuis,
c'est là où ça peut être.
Benjamin, mais depuis là, les 50 ans, il nous dit, moi, c'est important de parler la langue dans le pays dans lequel j'entraîne.
J'ai donné un argument tout à l'heure. Au Bayern, contrairement peut-être à Manchester United, je connais moins l'environnement de Manchester, mais au Bayern, il y a des dirigeants, des membres du staff actuel qui parlent très très bien le français et qui seront des appuis pour lui.
Oui, mais lui, il s'en fout, lui, c'est pas son mode de fonctionnement. On l'a dit, pour ses 50 ans.
Mais ce sera un soutien, quoi qu'il arrive, ça pourra forcément l'aider. Alors, j'ose espérer, puisqu'on le disait tout à l'heure, qu'il apprendra un monde allemand. J'entends.
Ou l'anglais, quoi.
Non, mais au moins l'anglais, honnêtement, et quasiment tous les joueurs maintenant sont au moins bilingues.
Il y a quand même des joueurs internationaux.
Dans les clubs.
Allemagne, ouais.
Partout, au moins l'anglais, s'il a vraiment envie de s'investir. Et puis au début, il peut très bien prendre un traducteur. C'est pas ça que sur les 6 premiers mois, c'est pas ça qui va changer la zone.
Le sondage du soir, à présent, c'était fromage ou dessert. C'est Manchester United ou le Bayern sur cette équipe. Ça donne quoi, là?
L'avantage pour
jouer à Manchester.
Romain.
Ouais, une nouvelle défaite pour Nabil Djellit.
C'est un bourbier.
Les internautes veulent envoyer Zinedine Zidane au Bayern Munich. 55-40.
Franchement, ça va. Mais ce qui est moins. Enfin, m'avait traversé.
Faut mettre un verre derrière. Oui. Non, je sentais qu'il y avait une galère.
Parce qu'il a
pas le verre.
C'est incroyable. J'ai gagné.
Ah oui. Zidane va-t-il foncer au Bayern? C'est plutôt non. Voilà.
Non, mais bravo Giovanni. Vraiment,
il n'y avait pas Manchester dans la question.
Ça a été un honneur pour moi.
Ils ont truqué la question.
Vous êtes à la place de Bernard, mais c'est pas la peine.
Il n'y a personne qui est sûr de victoire. C'est pas laquelle.
C'est qui?
Je sais pas.
Je pense qu'il parle de lui. Zinedine Zidane.
Dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir. Juste après faire Zidane, le championnat est faussé, ça, on en est évidemment sûr. Le minuit info de Romain Rang. Et puis, on ira donner un petit peu de crédit à Dibou Martinez, l'ennemi public numéro 1, qui s'est fait remarquer hier du côté du Stade Pierre-Mauroy. Tout de suite. Zidane dragué par le Bayern, ça s'est terminé. On vous en a parlé pendant la dernière heure, mes amis. Dans quelques minutes, le minuit info de Romain Aran, mais la présentation du casting. Oui, vous le voyez, il vous dit bonjour, c'est Giovanni Castaldi, Benjamin Corrèze est à ses côtés. De l'autre côté, le petit dernier de la bande de l'équipe du soir, Mathieu Dossévi, en compagnie de Nabil Djellit et puis le président. Et là, c'est...
Zidane.
En régie, si vous l'encouragez, on finit à 2h du matin.
On va pas jouer.
On va lui faire en sonnerie.
Romain, les infos du soir. Nice s'impose en ouverture de la 30e journée 3-0 contre Lorient.
Succès 3-0 des Aiglons qui n'avaient plus gagné à la Lens Riviera depuis quasiment 3 mois. Le premier but du match est inscrit par Morgan Sanson. Il avait lui-même récupéré le ballon auparavant. 1-0 en première période. Le deuxième but, il est signé Jérémy Boga à la 53e minute. Et enfin, Evan Guessant en fin de rencontre pour le 3-0. Le succès des Niçois, donc ils sont 5e à 2 points du top 4. Et on écoute la réaction de Francesco Farioli. Il était heureux, l'entraîneur niçois.
Una buona serata e siamo felici del
risultato. Je me félicite du résultat et de la prestation de ce soir. C'était un match à gagner, le premier d'une série de matchs décisifs. Donc on se remet au travail dès demain pour le choc face à Marseille. Il fallait absolument gagner ce soir parce qu'on n'avait plus gagné à domicile depuis fin janvier et on devait surtout gagner avec la manière.
Commentaire d'Hervé Penaud sur ce que vous venez d'entendre, c'est plus sur la forme que sur le fond.
Oui, bien sûr.
Oui, mais c'était quoi? Non, parce que vous l'avez dit au moment où les téléspectateurs ne vous ont pas entendu.
Oui, je disais que là, il ne parle pas la langue, il parle français. Pas. Donc Zidane peut tout à fait faire des conférences de presse en Allemagne ou en Angleterre sans parler la langue.
Mais Farioli ne joue pas le titre. Mal pour lui. L'entraîneur de Brest,
c'est à cause du calendrier.
Ah, d'accord. L'entraîneur de Brest, Éric Roy, a critiqué le maintien de la suspension de Pierre Lesmelo exclu dimanche lors du match Lyon au Brest en raison donc de son carton rouge. La suite vous est expliquée par Romain.
Pierre Lesmelo manquera le match face à Monaco dimanche, un match importantissime dans la course à la Ligue des Champions. Il avait été exclu contre l'OL, une décision très litigieuse, et la commission de discipline de la LFP a confirmé ce carton rouge et donc la suspension de Lesmelo. La réaction d'Éric Roy aujourd'hui en conférence de presse, très agacée.
Je pense qu'ils avaient la possibilité de pouvoir réparer, je pense, une injustice que tout le monde a constatée. On a le football français qui, je trouve, qui marche à deux vitesses. Je trouve que c'est assez étonnant et c'est très décevant. Ce qu'on pensait être une avancée pour les arbitres et pour les aider, en fait, on se rend compte que ça change rien et qu'en plus, le troisième niveau de la commission éventuelle de discipline change rien non plus. Donc bon, à partir de là, restons comme ça. Tout va bien dans le football français.
Voilà, député, Eric Roy, le match est important. C'est Monaco contre Brest. C'est la deuxième place qui est en jeu. Et Brest donc sera privé de son meilleur joueur, ou en tout cas d'un élément clé.
Oui, jouer.
Vous avez quoi à nous dire
Je comprends l'agacement d'Eric Roy parce que déjà... à la fin de la rencontre, moi, je pouvais comprendre la frustration de Brest. Ça n'enlève rien au succès des Lyonnais qui, ce soir-là, avaient fait un match fantastique et c'était une très grande rencontre. Après, sur le cas là précis de Lesmelo, je comprends pas qu'on maintienne ça. C'est une erreur d'arbitrage. Donc, en fait, on peut lui retirer, dire, on a fait une erreur, on s'est trompé, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, Monsieur Gauthier a reconnu qu'il y avait eu des erreurs lors de cette rencontre. Donc, quand il y a quelque chose de mal qui a été fait, qu'on peut le réparer, autant le faire. Et je comprends totalement la frustration d'Éric Roy. Et encore, il reste poli, il fait attention, il le dit avec une certaine ironie. Voilà, je le comprends totalement à 200%.
Pierre Sage était aujourd'hui en conférence de presse. Aujourd'hui, dimanche, c'est le grand match. L'OL affronte le Paris Saint-Germain. Dimanche soir, c'est au Parc des Princes.
Et oui, et l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais
a un plan. Son OL va beaucoup mieux. Déjà, on le rappelle, c'est même la meilleure équipe de Ligue 1 en 2024, même si le PSG a un match de moins. Et Pierre Sage a bien l'intention d'assumer cette force retrouvée avant d'aller au Parc des Princes. Les Lyonnais ne veulent pas se présenter en victime expiatoire. Écoutez l'entraîneur lyonnais.
Dans ce sens, je pense que le meilleur moyen de défendre, c'est d'avoir le ballon. Mais surtout, ce qui me semble important, c'est aussi d'emmener cette équipe dans une chose qu'elle n'aime pas, c'est-à-dire ne pas avoir le ballon. Et pour ça, il va falloir qu'on fasse preuve de maîtrise collective. Donc ça va être un vrai challenge stratégique et aussi un challenge opérationnel pour les joueurs le jour du match.
Avoir le ballon face au Paris Saint-Germain, faire défendre le PSG, c'est une mission impossible pour l'Olympique lyonnais. C'est le débat du Minuit Info. Jingle. Petite dispute entre Mathieu et Benjamin. Est-ce une mission impossible pour l'OL ? Oui, Mathieu Nocevi, face au Paris Saint-Germain. Benjamin du Parisien nous dit non. Qui va commencer, Benji, vous allez le contrer. On y va, Benji.
Bah évidemment, ça dépendra de la présence ou non au coup d'envoi d'Alexandre Lacazette. J'imagine que le mode opératoire de l'Olympique Lyonnais ne sera pas le même en sa présence. Mais pour autant, j'ai des souvenirs de matchs récents du Paris Saint-Germain qui se sont fait malmener par des équipes d'un faible niveau. J'ai envie de penser à Clermont, je pense à Reims qui a mis deux buts par exemple au PSG, je pense à Marseille qui était pas loin de marquer s'il avait pas un grand Donnarumma. J'ai regardé les notes qu'on avait fait dans le journal récemment et j'ai noté que Donnarumma était notre meilleur joueur en février, notre meilleur joueur en mars, ce qui prouve bien que le Paris Saint-Germain était obligé de défendre et a concédé énormément d'occasions. À Montpellier par exemple, il concède 12 tirs et c'était pas la première fois, c'est depuis le début de l'année.
Mathieu, vous dites mission impossible, pourquoi Mathieu?
Oh, ce que dit Pierre, c'est très sage, mais Je pense que dans les faits, c'est pas possible. Ils ont été malmenés en Ligue des Champions face à des équipes qui leur ont mis beaucoup de pression, ça c'est un fait. Mais je pense qu'en Ligue 1, il y a aucune équipe qui est en plus à l'extérieur, donc à Paris, qui est capable de mettre collectivement un pressing assez intense pour être haut et avoir la balle et récupérer la balle haut. Donc dans les faits, il a raison, c'est ce qu'il faudrait pour les malmener. Mais je pense que collectivement, que ce soit à Lyon ou n'importe quelle autre équipe, à Paris est incapable de le faire. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les équipes qui les ont mis un peu en danger étaient souvent recroquevillées devant la défense.
Mathieu,
pas très sage.
Mais vous savez, tout à l'heure,
vous êtes en phase d'apprentissage.
Oui, d'accord.
C'est bon ça.
Mais vous n'êtes pas en phase d'apprentissage. Vous avez fait quoi comme geste?
C'est terrible.
Vous avez fait quoi comme geste? Vous voulez refaire le geste?
Je plaide coupable. J'étais là.
Arrête.
Virulent.
On ne demande pas un carton pour son petit camarade. Voilà. Même si le camarade fait une erreur. Voilà.
Président que j'aime beaucoup.
Donc vous êtes averti, Benjamin. Faire défendre le PSG donc et avoir la possession, c'est une mission impossible. Mathieu ou Benjamin?
Voilà, c'est un chaos. C'est l'époque Mike Tyson quand il avait 20 ans, quoi.
Ah ouais? Oh, bah non, il y a pas de
photo. Malheureusement pour Benjamin, il est encore jeune, c'est normal. En plus, il a pris des exemples qui sont totalement faux parce qu'il nous explique que Clermont a mis en difficulté Paris Saint-Germain, enfin les ennuyer, mais pas en ayant la balle. Ils ne peuvent pas. Vous n'imaginez pas que Clermont, il va faire 63% de possession contre le Paris Saint-Germain.
Bah, si tire,
on peut toujours rêver. Non, mais on peut toujours rêver à le faire. Ça, je comprends. Et ça, d'une certaine manière, il a raison de pousser peut-être ses joueurs à avoir cette ambition-là. Mais au final, il va se passer quoi? La difficulté pour le Paris Saint-Germain, c'est sur les transitions rapides des adversaires. Mais c'est voilà. Pas sur, face à une équipe qui va prendre la balle. Quelle est l'équipe cette année qui a réussi à avoir plus de temps la balle que le Paris Saint-Germain? Quasiment aucune. Une fois en Coupe d'Europe, on m'a dit. Une fois en Coupe d'Europe, peut-être Newcastle, il y a peut-être une équipe qui arrive à faire.
Et la question, c'est aussi faire défendre le PSG. Pour le coup, oui, ils vont faire défendre le Paris Saint-Germain s'ils arrivent à adopter la stratégie qu'ont fait les autres adversaires récemment.
Le problème, c'est que.
Si, plus de 50%.
Je comprends ce que veut dire Pierre Sage. Et faire défendre le PSG en transition. Hervé, tu l'as parfaitement expliqué. Il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai surtout entendu beaucoup de coachs en Ligue 1 qui ont expliqué qu'en plus, le pire de ce PSG-là, c'est quand il n'a pas le ballon.
Ah,
c'est là où il est le plus dangereux.
Stop, parce que là, vous avez des références.
Ouais, il a
beaucoup. Lors de vos dernières entrevues avec Julien Stéphane, qui est arrivé au mois de mars en Coupe de France, question de vous, Giovanni, en disant vous venez de rencontrer deux fois, à peu près coup sur coup, un peu plus d'un mois, le Paris Saint-Germain. Julien Stéphane donc, évoque la difficulté d'affronter ce Paris Saint-Germain, un véritable casse-tête. Écoutez ce qu'il nous dit, et on a l'idée de Pierre Sage qui va avoir la possession. Regardez, écoutez.
Ce qui est assez paradoxal avec cette équipe, c'est qu'elle est capable d'avoir des longs temps de possession et en même temps, il faut avoir de la patience parce que comme dans la surface de réparation, il n'y a pas énormément de projection, ça ne vient pas de centre ou rarement de centre, il ne faut pas ouvrir certains espaces, donc il ne faut pas être aveuglé par ce qui peut être dangereux et ce qui est parfois, excusez-moi du terme, un petit peu chiant à gérer, quoi, parce que leur possession, elle peut être pénible. Voilà, elle peut être pénible.
Mais c'est sur les transitions, vous avez coupé un petit peu tôt le montage, c'est sur les transitions que Paris, donc c'est quand l'équipe en face a la balle, c'est que là, Paris
Eric
est létal. C'est quand tu es le ballon finalement face au PSG que tu es en danger. Est-ce que Pierre Sage donne le bâton pour se faire battre?
Julien Stéphane, il a fait quoi avec le Stade Rennais quand il arrive en demi-finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain? Il a laissé le ballon au Paris Saint-Germain, il a tenté les transitions,
c'est pour ça.
Il n'a pas été incapable de les mettre en danger.
Non, mais c'est pour ça,
ils n'ont pas existé
ça.
Même.
Non, mais c'est pour ça que le débat est insoluble avec ce PSG-là. Mais j'ai souvenir, j'avais posé la question à Eric Roy aussi, et il nous avait dit... C'est terrible parce que ce PSG-là, quand il n'a pas le ballon, c'est probablement la meilleure équipe au monde. Donc, Pierre Sage, je comprends ce qu'il veut dire. Mais la réalité avec ce PSG-là, le seul moyen de leur faire mal, mais ce n'est pas possible sur 90 minutes quand tu es l'Olympique Lyonnais, c'est d'aller les agresser, c'est de les embêter. C'est exactement ce qu'a fait Newcastle. Et pour le coup, Newcastle l'a très bien fait. Maintenant, je pense que Lyon n'a pas la capacité de le faire. Quand Paris est à 100%, et là, Benjamin, tu étais là et tu étais concentré à Barcelone, on peut me parler 107 ans de la supériorité numérique du PSG, mais quand ils sont dans ces moments-là où ils arrivent à presser haut et garder le ballon, c'est impossible pour un club de Ligue 1. C'est impossible.
En Ligue 1, ils le sont un peu moins, évidemment. C'est pour ça qu'ils sont un peu moins impliqués offensivement.
Pas face à Lyon.
Non, mais sur la plupart du temps, quand ils rencontrent un bloc qui est plutôt bas... Des fois, ça ronronne. Ils ont du mal à avoir le joueur qui va faire la différence. Ils sont un peu monotones. C'est pour ça, ça a été chiant de les voir. C'est pour ça, c'est la meilleure façon, en Ligue 1, en tout cas pour les clubs, c'est d'avoir un bloc compact. Ne pas être trop bas, parce que sinon, ça te laisse 70 mètres, 80 mètres à refaire en contre-attaque. Mais avoir un bloc médian bas et ne laisser aucun espace pour
Paris. Une petite voix. En Ligue 1, il y a une équipe qui a réussi à battre. C'est au Parc des Princes. C'était il y a longtemps. Au mois de septembre, c'était Nice. Ce soir-là, les deux attaquants avaient été fantastiques. Mofi, le prince du parc, doublé ce soir, 9 dans l'équipe. Laborde avait marqué, il avait eu 7. L'OL, avec là, on a Mofi Laborde qui était à l'époque, qui marchait sur l'eau. Est-ce que l'OL a des attaquants qui sont autant outillés pour agresser le porteur, pour aller un peu les contester? Je ne parle pas de l'habileté devant le but, je parle de ce côté. Où je vous mets la pression. Je suis pas sûr.
La question, elle est pertinente, elle est brillante, mais c'est un PSG qui était totalement différent. C'était avant l'entrée en lice en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Luis Enrique était là depuis quelques mois. L'effectif avait changé. La saison du PSG, elle est beaucoup plus avancée. Et honnêtement, pour avoir vécu ce match là-bas, je pense qu'on n'imagine pas à quel point la qualification à Barcelone, dans la tête des garçons, la quête du triplé, la quête de faire une fin de saison parfaite. Les mecs, ils sont en mission, là, en fait. Ce qui s'est passé à Barcelone, ça a été un déclic pour eux. Et s'il y a bien un match qu'ils ont coché, en plus, sur la fin de saison, en Ligue 1, c'est Lyon, au Parc, c'est un grand rendez-vous.
Ah, et puis, tu fais pas un pressing avec deux attaquants. C'est collectif.
Non, mais c'était notamment les deux attaquants qui contestaient beaucoup et qui, finalement, forçaient Donnarumma à relancer.
Non, mais faut que derrière
pas
ça
relancer, mais à dégager.
Si j'avais embêté Donnarumma. Si tu laisses un bloc sur 60 mètres contre Paris, c'est mort. Il faut que dans ce cas, tes défenseurs montent, tes milieux de terrain poussent les attaquants, et ça, c'est là où c'est un pressing collectif.
Et Matic sur les transitions rapides quand ça va aller vite.
Exactement. Et la défense.
Pardon, mais qui gagne ce débat? Est-ce que c'est Benjamin ou est-ce que c'est Mathieu? On conserve un petit peu, on vous donne encore un petit peu de temps, chers téléspectateurs. Le Red Star est officiellement ce soir en Ligue 2.
Saison magnifique du club de Saint-Ouen qui va retrouver la Ligue 2, donc 5 ans après sa descente. L'équipe entraînée par Habib Bey a survolé la saison. Il y a 4 journées de la fin, elle compte 12 points d'avance sur Martigues, le 3e, avec une différence particulière favorable. Donc c'est bon. Le Stade Bauer, comme vous le voyez, était en fusion ce soir, malgré la défaite de 0 face à Dijon. Le Red Star est donc en Ligue 2.
Oh, ok. Bravo, Habib.
Ah, bravo. Sacré boulot, Habib.
Les moins de 19 ans de Nantes, éliminés en demi-finale de la Youth League. C'était aujourd'hui, c'était face à l'Olympiakos. Mais comment c'est passé, alors?
Le rêve est passé pour les jeunes Canaries, malheureusement. Leur épopée a pris fin 0-0 après 90 minutes dans cette demi-finale face à l'Olympiakos. Les Nantais ont eu quelques occasions, notamment cette frappe à la 56e. Il a fallu aller au tir au but où les jeunes Canaries excellent, eux qui ont passé 4 des 5 derniers tours au tir au but. Mais là, c'était la fois de trop. 3 échecs sur les 4 premières tentatives et donc une élimination aux portes de la finale pour les Nantais.
Terrible.
Voilà. Tir au but, mais pour Nantes, non. C'était plutôt un parcours, vous l'avez rappelé, réussi.
4 fois sur 5 qui sont passés au tir au but.
Vous avez aménagé calendrier,
ça
ou
reste
pas
remarquable.
Non, mais il faut surtout les emmener pour nous expliquer comment gagner des séances de tir au but, ces gamins et le gardien. Bah, c'est de faire un séminaire avec eux, faire venir tout le football français et nous expliquer comment ils ont fait pour passer 4-5.
Bah, Marseille l'a bien fait. Hein.
Bah, oui. Oui, ils l'ont fait hier. Mais bon, sur les derniers temps, on peut pas dire qu'on était...
Vous communiquerez le numéro téléphone de Didier Deschamps.
Non, mais c'est vrai.
C'est une loterie ou pas?
Non, mais quel est leur secret? Je voudrais le savoir.
On pourra les rassembler.
Un peu de Serie A, c'est confirmé. La Juve perd 2 points encore au classement face à Cagliari chez le 14e.
C'est bon pour Zidane.
La vieille dame piétine depuis le début de l'année 2024. Tout simplement, elle est passée d'un prétendant au titre à probablement un troisième premier pénalty pour Cagliari sur cette main de Bremer. Ça fait 1-0 à la demi-heure de jeu. Nouveau pénalty obtenu par les Sardes avec cette faute de Chechny. Ça fait 2-0 à la 36e minute. Heureusement, la Juve va réussir à revenir dans le match. Le coup franc de Vlahovic au premier poteau. Ça, c'est bien joué. Et à la 87e minute, c'est Dossena qui va marquer contre son camp. De partout, la Juve prend quand même un point. La Juve est 3e du classement, Cagliari est 14e.
Rien à voir avec Mathieu Dossévi, Mathieu Dossena.
Non.
D'accord, c'était juste pour savoir.
Presque. Ah, on a le coin des blagueurs. À Barcelone, c'est terminé pour Arthur Fils, éliminé par Dusan Lajovic. Il est serbe.
Lajovic. C'est pas Dusan Vlahovic, c'est Dusan Lajovic cette fois-ci face à Arthur Fils. Arthur Fils,
j'avais dit Lajovic.
Oui, exactement. Arthur Fils, il avait signé une très belle performance hier en battant Alex de Minaur en 8e de finale à Barcelone. C'était sa première victoire contre un top 20. Et donc aujourd'hui, il était en quart face à Dusan Lajovic, un joueur expérimenté. Et il s'est incliné en 3-7, 6-4, 3-6, 6-2. Ça a été un joli match, un joli combat. Malheureusement, Arthur Fils, il a commis beaucoup trop de fautes directes. Quelques coups gagnants aussi, vous l'avez vu, mais surtout beaucoup trop de fautes directes. 51 au total. Ça restera un joli parcours pour lui à Barcelone et ça fera partie des Français à suivre à Roland Garros.
C'est très bon ça.
Un Masters 1000 tourné à l'iPhone, c'est tout original. La fin du Tour des Alpes.
ATP 500, mémé.
ATP 500, c'est pour ça. La fin du Tour des Alpes aujourd'hui sur la chaîne d'équipe et le vainqueur est espagnol. Comme vous êtes bilingue en espagnol, je vous laisse prononcer le nom du vainqueur, s'il vous plaît.
Juan Pedro López.
Juan Pedro López, le grimpeur de la Lidl Trek, il avait 38 secondes d'avance ce matin avant la dernière étape, 38 secondes d'avance sur Ben O'Connor. Il a parfaitement tenu en finale. Finissant dans le premier groupe aujourd'hui, il est donc au centre de l'image, évidemment, Juan Pedro López. Mais cette cinquième étape a surtout été marquée par une victoire française, celle d'Aurélien Paré-Peintre, le coureur Décathlon AG2R, une équipe qui marche fort depuis le début de saison. En plus, son frère Valentin Paré-Peintre a pris la troisième place. Très belle journée pour la fratrie. Petite info Petite info en plus, dans Ouest France, Jean-René Bernodeau, le manager de la formation Total Energy, a confirmé être en discussion avec Julien Alaphilippe pour la saison prochaine.
Ah, il lui fait la cour, il tourne autour déjà depuis quelques semaines, Jean-René.
A priori, ils n'ont pas envie de le garder en Belgique. Je pense que Patrick Lefebvre n'a pas trop envie, a priori.
Assez cher, hein, c'est 1 million, hein, le contrat. Hein. Grand Prix de Chine, c'est ce week-end, c'est de la Formule 1, 5e course de la saison. Ça commence demain avec une course sprint.
Oui, mais ça risque de ne pas être une partie de plaisir ce week-end en Chine pour les pilotes à cause de la pluie. Regardez, il est tombé des cordes pendant les qualifications de cette course sprint. On a vu pas mal de glissades sans gravité, heureusement. Ici, en l'occurrence, Charles Leclerc. Et à l'arrivée, c'est Lando Norris avec sa McLaren qui a signé la pole position devant Lewis Hamilton, Fernando Alonso et Max Verstappen 4e. La pole position pour la course sprint de samedi, on le rappelle.
Événement ce week-end sur la chaîne d'équipe, ça se passe au Mans avec les 24 heures moto.
Rendez-vous à 14h45 demain pour cette course légendaire sur le mythique circuit du Mans, course de moto cette fois-ci. Donc plus de 17 heures de direct sur la chaîne L'Équipe et L'Équipe Live, demain et dimanche pour la première course de la saison du championnat du monde d'endurance. Et la Honda numéro 5, vainqueur l'année dernière, vise le doublé. On écoute l'un de ses pilotes, il est français, il s'appelle Alan Teixeira.
Là, il y a deux choses importantes. Il y a la victoire, c'est toujours important. Gagner au Mans, c'est quand même toujours c'est quelque chose, surtout en tant que Français. Et après, il y a la deuxième priorité, c'est le championnat. C'est un championnat très court, 4 courses, dont 2 24, 2 8 heures. Donc, il ne va pas falloir faire d'erreur non plus.
Une image impressionnante à présent, avec une vague monstrueuse à Nazaré, au Portugal.
Ouais, je ne sais pas si ce que je vais vous montrer est absolument ahurissant ou effrayant. Regardez, le surfeur allemand Sébastien Stödner et son équipe annoncent avoir vaincu cette vague de 28,57 m. Le précédent record était à 26,21 m. C'était déjà à Nazaré, l'endroit est bien connu au Portugal. Il faudra cependant attendre une homologation, mais en tout cas, les images sont folles.
Ça te rappelle, il reste quand même à distance de la vague.
Genre de mec, quand j'étais plus jeune, c'était Robin Ash. Et effectivement, moi, la torche. Moi, c'était la torche en Bretagne. Non, mais... j'ai surfé des vagues. D'ailleurs, quand les gens me voient arriver sur la plage avec mon corps un peu athlétique.
La dernière fois que j'ai surfé, c'était sur Internet.
On est bien d'accord, président, que là, vous dites n'importe quoi.
Non,
la coupe, la torche, à droite.
Non, pas du tout, mais pas
non,
du
non,
tout.
Non, mais franchement, regardez, là, c'est,
pourquoi
c'est monstrueux.
Bah, ouais, j'ai
non, mais
ça.
À la torche, vous étiez sur ce genre de vague.
Ah non, pas, non, pas,
c'était voilà,
pas,
voilà, d'accord, pas, ok, pas, donc, on est bien d'accord. Donc, président, on est bien d'accord.
C'était des vaguelettes. Des vaguelettes. J'étais au début, là, là, il y a encore un peu de sable.
Ok.
Hervé, c'était pas toi la doublure dans Point Break?
Oui, bien sûr. La doublure de Patrick Swayze.
Bien sûr.
Bon, amis téléspectateurs, je suis désolé, je suis confus. Un petit cadeau pour finir. Avec une saga de légende qui débarque sur la chaîne équipe. Ça va vous plaire, mon Hervé.
Mais non, plutôt que de dire ce que c'est, Paul Giffard en régie, indice musical.
Alors. Ah Rocky
oui, bien sûr. Et oui, Rocky arrive sur la chaîne équipe. Toute la saga, ce sera chaque lundi. On verra ça avec plaisir, évidemment. L'incroyable histoire du boxeur Rocky Balboa. Ça commence ce lundi. Rendez-vous
à Adrien.
Adrien
c'est bien.
Il maîtrise.
Il le fait bien.
Merci beaucoup.
Elle est belle,
magnifique.
Elle est belle, la fiche.
Bon, voilà. Donc, tous les lundis soirs, à partir de 21h10, voilà.
Ah, top,
on aura peut-être
top.
L'occasion de débriefer les Rockies.
Ah, ça serait formidable.
Oh, ce serait énorme.
Dibou Martinez, honteux. C'est le retour de l'ennemi public numéro 1 après la dernière finale de la Coupe du Monde. Le gardien argentin a refait parler de lui hier en Ligue Europa Conférence avec toujours le même mode opératoire. Une séance de tirs au but où son intox a encore fonctionné, de tirs perturbés. Ben Taleb et André au tapis. Un comportement qui a déplu, notamment au président du LOSC, Olivier Létang. Écoutez-le.
J'ai pas envie d'en parler. Je pense que est-ce qu'on passe du temps à parler de ce garçon qui a une attitude qui est pas celle d'un sportif de très très haut niveau, je trouve. Parce que dans le sport de haut niveau, dans la défaite ou dans la victoire, il faut rester calme, élégant. Donc j'ai pas envie de parler plus longuement. Je préfère qu'on se concentre sur nous et qu'on ressorte tous les aspects positifs de cette soirée.
Président,
parce qu'il y en a.
Présent hier en tant que grand porteur de l'équipe au stade Pierre-Mauroy, c'est Hervé Penaud. Vous répondez à Olivier Létang, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Vous répondez non à la question, les provocations d'Imou Martinez dépassent-elles les bornes. Qu'avez-vous constaté hier lors de Lille-Aston Villa? C'est le moment, je vous laisse nous raconter votre soirée. Vous avez une minute pour nous expliquer tout ça.
Oui, là, vous savez, il est tombé dans le piège de la mauvaise réputation, la fameuse mauvaise réputation. Donc on a tous en tête, évidemment, l'image de Martinez après la finale de la Coupe du Monde, où il avait été un petit peu ridicule, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en revanche, là, ce qui s'est passé, quand il est arrivé à Lille, évidemment que tout le monde l'attendait. Le public était à bloc sur lui, a commencé évidemment à l'insulter, à critiquer quelques membres de sa famille, d'ailleurs de sa famille assez proche. Et lui, il s'en est plutôt servi pour justement être encore plus fort. Dès le début du match, avant le début du match, il s'est posté face à une tribune, il les a regardés, les toisant un petit peu, imaginez un peu l'ambiance. Et pendant tout le match, il a fait une chose que j'avais rarement vue, c'est-à-dire que même l'équipe menait 1-0, il a pris un temps infini, d'ailleurs il prend un carton jaune pour ça, justement pour prendre son temps, comme s'il voulait finalement aller à cette séance de tir au but, parce qu'il sait qu'à ce moment-là, il leur bouffe le cerveau. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, ses petites attitudes, ses drôles, etc. Il a pris un carton jaune, c'est pas très grave. Au final, il a été énorme. Ça a été le grand homme de ce match-là. Et c'est pas celui qu'on a vu en Coupe du Monde, c'est celui qu'on a vu à Lille. Et de ce côté-là, on peut surtout pas parler de provocation.
Merci beaucoup de nous avoir raconté ce que vous avez constaté hier soir du côté du stade Pierre-Mauroy. Hervé Penaud, vous êtes-il convaincu, chers téléspectateurs? Vous allez faire un tour du côté du site
de l'équipe. Et puis, aussi de l'autre duel.
Mais bien sûr, on va.
On sent qu'il s'est prêt au jeu, Mathieu.
On va vous le donner dans quelques minutes. Une chose en son temps, mon cher Mathieu. Dibou Martinez, donc, des provocations qui dépassent les bornes, c'est en tout cas l'avis d'Olivier Létang. C'est pas fondamentalement le constat d'Hervé Penaud. Vous avez convaincu, là, l'ensemble du plateau? On fait un petit tour de plateau, oui ou non? Vous avez écouté votre président, Mathieu, oui ou non? Convaincu ou pas, là, parce qu'il nous a dit oui ou non? Oui? Oui, ok.
Il a consolidé ce que je pensais.
Consolidé, ok, confirmé, oui?
De même, évidemment.
Même? Giovanni?
Il l'a très bien raconté, on sent qu'il a une belle plume.
Oui.
D'accord, très bien, ok. Personne n'est outré par son comportement. Quand Olivier Létang dit qu'il faut être calme, faut avoir une attitude, on va dire, exemplaire. Non,
parce qu'on... On veut toujours que les joueurs soient
exemplaires,
soient exemplaires.
Mais
c'est humain. Il y a 60 000 personnes qui lui en foutent plein la gueule pendant tout le match. Clairement. Il faut que le public accepte que le joueur puisse répondre. Il l'a fait à sa manière.
C'était pas vulgaire.
Voilà, c'était pas vulgaire. Il a tué personne. Il montre une réaction. On voudrait entre guillemets qu'on puisse en foutre plein la gueule sur les joueurs pendant 90 minutes et que entre guillemets il reste.
Vous êtes un peu Jimbo.
Il reste stoïque, il rien, mais ça reste humain. T'as envie d'exprimer quelque chose. Il l'a fait à sa manière.
Bah, faut accepter ça, des deux côtés, en fait.
Mathieu, peut-on chambrer dans le sport?
Bah, j'espère, en tout cas. Et donc là, je pense que là, les Français sont un peu de mauvaise foi, parce que eux, ils le font, ils l'ont chambré à juste titre, parce que, voilà, on est tous un peu haineux de cette Coupe du Monde. Voilà, vous lui en mettez plein la tête pendant 90 minutes, il répond à sa manière. Après, c'est aux joueurs, par rapport à la séance de pénalty, de eux rester dans leur bulle pour pouvoir gagner ce combat psychologique face à lui. Mais...
Moi, il y a un argument que j'ai bien aimé du président. C'est quand il dit il est rentré dans le cerveau des attaquants.
Chaque fois pour toi, pardon.
Être gardien de but, c'est un poste très spécifique. C'est un poste très particulier dans le foot. Et en fait, ils ont peu d'occasions, eux, d'avoir ce type d'influence. Un attaquant peut rentrer dans la tête de son défenseur en le dribblant pendant 90 minutes, en le martyrisant.
La séance de tir au but, c'est le moment de l'emprise du gardien, ou pas.
Exactement. Mmh. Et en fait, Dibu Martinez, c'est au-delà d'être parce que ça, on oublie de le dire, un formidable gardien.
Oui, ça, oui.
Parce qu'à chaque fois, on le réduit à ça. Mais c'est déjà un gardien qui est brillant sur les séances de pénalty. Il sait très bien qu'il en joue et qu'il sait qu'il est en France. Il a entendu les insultes, donc il est gargarisé. Et c'est son moment, et c'est pas interdit. Et c'est là où je trouve la sortie d'Olivier Létang, avec tout le respect que je dois, totalement ridicule. En fait... Dibu Martinez se sert.
C'est une petite formule à Yann Comasias. Avec tout le respect.
Tout le respect. Et pareil.
Dibu Martinez, il se sert du règlement pour en faire ce qu'il veut. Et il a le droit de le faire. Et c'est ça, être un sportif de haut niveau, c'est optimiser tous les éléments que tu as en ta possession.
Je ne sais pas si vous étiez toujours au stade Pierre Mauroy dans les tribunes, mais regardez, il y a notre collaboratrice Anna Caro, qui était envoyée spéciale, qui collabore parfois, souvent avec nous à l'équipe du soir. Elle nous fait cette petite photo là de son smartphone. On est à la fin du match, Aston Villa est qualifié, la séance de tir au but, donc c'est bien passé. Dibu Martinez présente son maillot. Vous étiez encore en tribune, vous l'avez vu, ce truc-là?
Oui,
j'ai
vu un moment qu'il était en train de montrer son maillot. Mais
comment était le public là? Ah ben chauffé à blanc, ça pleurait, c'était comment?
Oui, mais enfin lui après, alors il a eu une drôle d'attitude, vous savez, il a marché un peu, des marches un peu particulières, avant que ses équipiers lui sautent dessus. Et après, il a couru tout de suite pour aller voir les supporters, parce qu'il y avait quand même plus de 2600 supporters anglais. Ouais. Bah, les autres, évidemment, les Français étaient...
L'Aston Villa.
Mmh. Donc c'est sûr que du côté supporter français, c'était assez incroyable. Mais ce qui est marrant, c'est cette manière, cette emprise, effectivement, qu'il a... Et cette manière d'être, en fait.
Vous l'avez senti au stade.
Ah, oui. Ah, mais de toute façon, moi, j'ai senti, mais même j'avais la sensation qu'il voulait qu'on aille
voulait en découdre
de tir au but. Mais c'est, ouais, c'était. Parce
que tous les joueurs sont pas capables de répondre. C'est se mettre contre tout un public et se nourrir de ça. Tous les joueurs sont pas capables
de
ça. Au contraire, ça va les détruire. Ils vont plutôt se mettre dans leur but. Lui, il se nourrit de ça. Il y a certains joueurs qui sont capables de ça. Voilà, c'est sa façon à lui de s'exprimer et de devenir même meilleur. Laissons-le, encore une fois, il a tué personne, il n'est pas été...
Et rappelez-vous le premier pénalty, ce qu'il fait, le premier tir, alors je ne sais pas si on le voit à la télé, c'est-à-dire qu'il y a la balle qui traîne,
Bentaleb.
Il court, Bentaleb, c'est Bentaleb, donc le premier qu'il va arrêter, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas loin de son but et d'un seul coup il voit la balle pas très loin et il court vers la balle pour la toucher.
C'est là où d'ailleurs l'arbitre commence à lui dire...
Il ne faut pas trop en faire. Mais il a toujours cette petite attitude, mais attendez, on a tous adoré Groblard quand ils sont champions d'Europe avec Liverpool, il était dans tous les sens, tout le monde disait mais c'est génial, il est rentré dans la tête.
Groblard, gardien zimbabwéen des années 80 de Liverpool. La présentation du maillot de Dibu Martinez, là, vous avez vu cette petite photo filmée et prise par Anna Caro. Nous, ça nous a rappelé deux salles, deux ambiances. Messi à Bernabeu, 2017, il marque le troisième but, c'est la victoire du Barça. Ouais. Et voilà, il présente le maillot.
Fekir quand même.
Et puis Nabil Fekir, la même année, 2017, à Geoffroy Guichard, 5-0. Mais là où Messi avait été glorifié, Fekir avait été traité d'irresponsable car le public de Geoffroy Guichard avait envahi le terrain. Le derby avait été interrompu pendant 40 minutes. Peut-on chambrer dans le sport? Je repose un peu ma question parce qu'il y a des moments... Il y a des moments où on le fait, des moments où on le fait pas.
Il avait été attaqué.
Comment?
Sur ce plateau-là. Parce que moi, j'étais de l'émission qu'on a fait le lendemain de ce match-là. Il y avait même Vincent Deluc. Fekir. J'étais un des seuls, à l'époque, à dénoncer d'une certaine manière ce qui s'était passé. Parce qu'on voyait qu'il y avait une ambiance absolument incroyable à Geoffroy Guichard. Il y avait eu des bus caillassés. On sentait qu'il y avait une tension. Donc, à un moment, faire ce geste-là, je pense que c'était pas le bon geste à faire. Parce qu'à un moment, faut pas aller un peu trop loin. Voilà. Ça, c'était une erreur. Mais il avait été défendu par plein de gens en disant ça fait partie de...
fait partie du sport.
C'est une erreur, parce qu'il y a un investissement.
Non, mais
parce
l'environnement. Que les... Mais quand tu sens qu'un environnement est prêt à craquer, c'est plutôt ça le truc.
C'est plutôt ça qui fonctionnait, plutôt de réprimander un joueur. Il montre son maillot. C'est plutôt au public qu'il faut contrôler et qu'il faut leur expliquer. Voilà, vous chambrez, etc.
Sur le fond, tu as 100% raison. C'est évidemment au public qu'il faut gérer. Mais il n'empêche que quand tu sens qu'il y a la limite de dépasser.
Quand la cocotte minute est explosée,
il faut avoir l'intelligence de ne pas trop en rajouter.
Ça s'appelle du bon sens.
Sur les provocations dans le sport, ou plutôt sur les comportements dans le sport. Le dimanche 7 avril dernier, il y avait un Nantes-Lyon, c'était à huis clos. Hein, oui. Vous savez, c'est sans supporter.
C'était horrible.
Oui, c'était horrible. Mais je ne sais pas si vous avez une idée. Enfin, si vous avez regardé le match. Oui. Moi, j'ai regardé le match.
J'ai pas eu le choix.
Et donc, pendant toute la soirée, on a entendu des bancs s'insulter. Et j'ai découvert la voix, mais après, je me suis renseigné, celle de Jamal Alioui, l'un des adjoints de Pierre Sage. Alors, lui, il a le talent de provoquer. Le bon adverse, c'est ce monsieur, c'est Jamal. Voilà, vous avez votre photo dans l'équipe du soir. Il a un talent pour provoquer le banc nantais. Voilà. Ça, en général, c'est plus condamnable. On se souvient des années de Rémi Vercoutre en disant « Non mais Rémi, il faut arrêter ».
Évidemment
pas
que c'est plus
condamnable.
Non, parce que là...
C'est pas la même chose.
Ben non, ça n'a rien à voir, parce qu'en plus, c'est...
Ça n'a rien à voir.
C'est sur les bancs, moi, je trouve que ça n'a pas sa place. Là où...
Mais c'est constamment, hein.
Oui, c'est tout le temps.
Il y a une bataille de bancs.
C'est fréquent.
Le dimanche matin,
il y a une bataille. Et il n'y a pas qu'en France, parce que là, on parle en France, mais récemment, il y a eu une brouille énorme avec Mikel Arteta. C'est arrivé aussi. Non, les exemples que vous avez montrés sur les célébrations, moi je trouve que ça c'est la liberté des joueurs, il faut le laisser, je trouve que c'est beau, ça fait des moments légendaires. Mais les gens qui sont autour, et là Hervé parlait de bon sens et de savoir garder son sang-froid, ceux qui sont sur le banc, qui sont dans le staff technique, eux ils ont vraiment ce devoir-là. On a des souvenirs où je me souviens que Sylvain Armand était descendu et avait eu une attitude exécrable, véhémente. Luis Campos...
Je crois que Frédéric Antonetti l'avait rappelé à l'ordre d'une manière très sobre. Le rhinocéros était tombé sur lui.
Mais ça, je trouve que c'est vraiment condamnable.
Mes amis, regardez qui va arriver dans quelques minutes. Je pense qu'on peut rentrer en connexion, puisque depuis le début de la saison, on a un arbitre professionnel. Il n'y a aucun problème avec cet arbitre-là. Voilà. C'est le VAR de l'équipe du soir. Il a visionné ou revu donc les meilleurs moments de la semaine. Enfin, les meilleurs moments ont peut-être des moments, on va dire, un peu gênants pour certains chroniqueurs de l'équipe du soir.
Aïe.
Oui, Giovanni, faites dire moi aussi, d'ailleurs, je suis le premier. Allez, à tout de suite, mon petit. Dernière ligne droite de l'équipe du soir. La une de l'équipe, qu'est-ce qui se trame du côté du quotidien?
Eh oui, on a deux unes, notamment celle sur l'Olympique de Marseille au lendemain de la qualification face à Benfica en Ligue Europa. Alors, il y en a une qui était la force était en eux, c'est la Marseillaise. Et celle-là, c'est la Lyonnaise avec une interview de Pierre Sage par Hugo Guillemet. Et Hugo nous a dit que c'était vraiment une très très belle interview.
Tous les jours, je joue ma carrière. Je crois que demain, non. Demain, ça joue pas, Lyon. Pierre, il...
C'est après-demain, le match.
Oui, c'est
un aménagement du cadre.
Non, je regarde le titre. Cette saison, il y a un arbitre qui visionne quotidiennement les émissions de l'équipe du soir. Il s'appelle Monsieur André Hany. Il va rentrer pour la VAR de l'équipe du soir, mais juste après le jingle. Hein. Attention. Bonsoir, Monsieur André Hany.
Vous allez bien?
J'ai l'impression que semaine après semaine, cette foulée devient de plus en plus.
C'est que je m'entraîne, mais attention, il y a un entraînement à chaque fois.
Pour le marathon? Je voudrais une paire de 43.
Monsieur André Hany, ce que vous avez relevé ce soir, je sais pas, au débeauté, comme ça, quelque chose qui vous a paru un petit peu illicite?
Effectivement, mais au débeauté, c'est un très beau mot. Félicitations pour la liaison avec Brest en début d'émission. C'était vraiment super, on regarde.
Ah, merde. Cette info a été largement commentée aujourd'hui en conférence de presse par notamment trois coachs. On va commencer par Éric Roy, coach de Brest. On l'a, ça vient de Brest, c'est un peu long.
C'est pas facile, Brest, c'est long.
Un Paris-Brest, c'est toujours sympa.
Allez, Éric Roy, du côté de Brest.
T'es vif quand même. Hein.
Je vais vite. Moins que toi sur le terrain quand même.
Ouais, ça fuse.
Sympa.
Ouais, c'est une classique, le Paris-Brest. Nabil, peut-être une autre?
J'ai donné ma langue au chat des beautés.
Elle était mieux, Paris-Brest. Elle était mieux. D'ailleurs, on va revenir dans quelques instants sur la semaine de nos amis en régie. Restez là, ça va être intéressant. Mais pour le moment, je vais siffler le coup d'envoi de la VAR de cette semaine. On y va. Siffler le coup d'envoi. Tanguy, content d'être là?
Effectivement, je regrette pas d'avoir écourté mes vacances au ski pour assister à ce match magnifique.
Ah, c'est gentil. Bon, et début de la VAR de la semaine avec un envahissement du terrain équipe du soir juste après la victoire du PSG contre Barcelone. À côté, les supporters de Leverkusen la semaine dernière, c'était ridicule.
Ah oui, c'était sympa. Ouais.
Ah oui, c'est bon. Je tenais mettre un carton rouge à monsieur Bertrand Latour.
Et cet envahissement de terrain a notamment permis à Johan Rioux de faire son retour dans l'équipe du soir. Il était content, Johan.
C'est mon retour à l'équipe du soir depuis 5 ans. Je suis en prison. Non, je suis pas en prison. Je suis en prison.
Mais y aller, Johan.
Eh oui, trop content vu certains de ses gestes quand même. Ah ouais, ok mon Johan, c'est bien. Ouais. Ah oui, c'est mieux comme ça. Bon, après, un autre qui était super heureux de la qualif du PSG, c'est Jérôme Alonso, mais pas pour les mêmes raisons.
Ça nous offre d'autres soirées à vivre ensemble. Ça, c'est quasiment le plus important.
Vous étiez inquiet pour votre quota de pige.
Et oui, toujours penser à son contrat, c'est important. Mais avec cette victoire du PSG, vous étiez également content, mémé, content d'accueillir les téléspectateurs des autres chaînes. Ouais. Et heureusement qu'à la VAR, on a des caméras partout, vraiment partout, vous allez comprendre.
Juste, mes amis, évidemment, vous êtes nombreux certainement à nous suivre. Je regarde. Oh, ah oui. C'est fantastique, c'est les audiences d'une chaîne comme TF1.
Après, vous savez, mémé, il faut toujours avoir une grande méfiance dans les chiffres. Et oui, je dis méfiance, même si je sais que sur le terrain de l'équipe du soir, on n'utilise plus ce mot.
Si l'Atlético était passé.
Ah là, méfiate. Ouais. Pas pareil.
Méfiate.
Ah oui, non, méfiate.
C'est même plus la méfiance.
Ah oui, la méfiance
croisée avec la chasse.
Je pensais pas l'entendre dans l'équipe du soir, cette phrase-là.
Méfiate, écoutez, on est obligé de.
C'est une belle trouvaille. Il faut traduire.
On continue cette semaine, mais parce que cette semaine, vous avez été remplacé. Oui. Et oui, donc forcément, on a analysé cette semaine. C'était les remplaçants de la semaine. Ils ont fait leur petite rentrée. On va regarder ça, c'est tout de suite. Ah, et entrée du premier remplaçant, Timothée Mémon, une superbe entrée avec aucune erreur.
On a brillé pour l'équipe de France de rugby fauteuil aujourd'hui sur l'équipe live.
Deux secondes, Nico Chancer à 3 points. Oh oui. Superbe.
Merci pour le piège, pour le lancement, bravo.
Eh oui, non, vraiment, tout s'est super bien passé, notamment avec la régie.
Cette composition d'équipe, elle s'est affichée, mais de façon un petit peu rapide, avec Donnarumma dans la cage, avec une défense composée de...
Vous allez voir dans le camion de la VAR, alias la régie, ils ont totalement lâché Timothée
c'est
et moche. Inversement.
C'est pas beau. Hein.
Non, c'est pas beau ce qu'ils
font. C'est pas beau, je les remercie pas.
Attends, celle-là.
C'est sans surprise, cela dit, ce sont des mauvaises personnes.
Bon, après, c'est pas toujours la faute du camion de la VAR. Aussi.
Mañana voy a estar en pista, sí.
Le dîner de minuit info, on me l'avait promis, il n'arrive pas, mais c'est pas grave.
Attends, ils veulent qu'on retourne en régie ou quoi?
Non, non, là, je pense que c'est de ma faute.
Et puis la force de Timothée, c'est qu'il sait vendre le show.
Il l'assure, Kylian Mbappé est prêt.
Je pense que les supporters ne jouent pas, qu'on se à l'intérieur.
Alors, ce n'était pas la bonne réponse d'Achraf Hakimi. Ceci dit, aucune de ses réponses n'était vraiment intéressante. Donc, on aurait mis celle-ci, on en aurait mis une autre, ce serait à peu près la même.
En parlant de vendre le show, on fait entrer le second remplaçant, c'est Giovanni Castaldi qui s'est également fait rêver nos supporters.
On peut reparler des buts, hein.
Ouais, le troisième, là.
De toute façon, vous inquiétez pas, on n'a pas les droits, on les reverra pas, mais.
Mais erreur de Giovanni, quelqu'un avait mis la main au portefeuille pour acquérir les droits.
J'ai dit une énorme bêtise tout à l'heure. On va pouvoir revoir les images grâce à vous, Romain. Merci d'avoir payé pour nous.
Mais oui, c'est
monégasque qui les
vend. Je ne serai pas payé. Allez-y, Romain.
D'ailleurs, Romain aurait également proposé de payer toutes les images de cette émission. C'est très gentil à toi, Romain. Donc bon, il se passera de salaire, bien sûr, mais ça, c'est pas le plus important. On fait ça avant tout par passion, ici.
Ouais, bien sûr. Et... d'amour de fraîche.
Bien sûr, exactement. On va continuer maintenant avec ceux qui méritent non pas les félicitations, mais des bons gros cartons rouges. C'est les jeux dangereux de la semaine.
En même temps, nous, en tant que journalistes, on a plus connu le très haut niveau que Ludo Aubraniac. Mais bon, ça, c'est autre chose.
Moi, quand je vois des gens heureux, je chiale. J'ai encore envie de chialer, même maintenant. C'est un mélange entre où et Charlie.
Vous pleurez pas beaucoup, du coup, pour le PSG en Ligue des Champions. Ils sont rarement heureux.
Mais oui, mais ces entraîneurs-là, ils ont un ego fort. Il faut le dire.
Est-ce que c'est Mbappé sur toi que sur eux? C'est cette trouille que cette équipe
diffusait.
Alors que je pense que bien entouré, pour une fois que tu m'apprends un mot.
Jingle.
Il faut faire mieux, non?
Non, c'est bien, c'est sobre, c'est bien.
C'était sobre, hein.
C'était pas.
Sur Ousmane Dembélé, là, ça fait 2 buts en 2 matchs. Il en a 3 buts hein, à son compteur depuis le début de la saison. Et à chaque fois qu'il marque, c'est sur une touche. Faut pas que le mec réfléchisse trop. Hein.
Giovanni Castaldi veut vous répondre, Bernard.
pour une fois qu'il veut bosser.
Ça fait quand même deux semaines que je conclue les jeux dangereux avec Bernard qui attaque Giovanni. Il va falloir que ça se règle à un moment donné.
Mais il m'aime bien dans le fond.
Non, non, il
pas tant que ça. C'est l'amour, l'amour vache quand même.
Exactement.
Ah, oui. Parce que par derrière, c'est pire ce qu'il
dit. Ouais, pour conclure, oui, faut pas prendre de sous-entendu avec cette phrase. On va juste en faire.
Allez.
Ouais, pour conclure, vous en avez l'habitude maintenant. C'est la commission de discipline. On va savoir qui est suspendu pour la semaine prochaine. Allez, c'est allez. Maintenant. Et on commence avec un match de suspension pour le craquage de la semaine qui revient à Bertrand Latour qui n'a pas apprécié sa défaite dans le quiz de fin.
Oh oui.
Allez, troisième indice.
Thiago Silva.
Thiago Silva, 4 points.
Oh, c'est un truc de fou.
Allez, un match de suspension, le temps de reposer votre voix, Bertrand. Et puis pour deux matchs de suspension, c'est maintenant Olivier Rouillet qui n'est plus le regard de l'équipe du soir. Non, il a changé de registre.
Ouais. Pourquoi vous m'embêtez?
Non, mais c'est pas du tout.
Je vais vous en mettre une, vous allez voir.
Non, c'est pas dans votre contrat, vous êtes le regard de l'équipe du soir.
Ah bon, mais j'ai pas envie.
C'est,
là,
pas, c'est pas le Tyson de l'équipe du soir.
Oui, le problème d'Olivier, c'est que quand il s'énerve, c'est pas Mac Tyson qui ressemble.
La finalité du match aller et du match retour, c'est pas du tout la même. Bon, là, c'est la qualif. Et ils l'ont eu. Alors taisez-vous.
Allez, deux matchs de suspension. Puis on finit trois matchs de suspension pour mes amis dans le camion de Lavar. C'était une belle semaine, les amis.
Savoir aussi qu'est-ce qu'il faut retenir de la conférence d'avant-match de Jean-Louis Gasse.
Bien sûr.
C'est le jeu 1, 2, 3 soleil, là.
Ah, le bouche,
quoi. Bonsoir.
Ah, si.
Ah, oui, on a perdu les droits sur Candice.
Oui, au revoir Candice. C'est problème technique toujours. Le lendemain de la défaite du Barça, Eric Blanc était là et à la VAR, ils n'ont pas voulu prendre de risque de débordement, alors ils ont décidé de le saboter.
Ah ouais. Eric Blanc, je vous ai croisé et vous m'avez dit comme ça votre sentiment. C'est un petit match.
Ben, il y a la possession.
Ah là, mais vous avez une double globe, Marie.
Il est en concert ce soir à l'Arena.
Et ça vous avait bien fait rire, mémé.
Possession, mais moi je trouve que. Bon, bah, allez, parle.
Il y a comme un écho, mes amis.
Non, mais.
Oui, non, non. Bon, Eric.
Et du coup, pour terminer, on envoie la une du journal, non? C'est comme ça?
La une de l'équipe, juste avant.
Spina, c'était un bon jeu.
On l'a pas la ligne de l'équipe. On doit y aller.
On y va.
Allez, trois matchs de suspension et puis à la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Hugo. C'est bien. On m'a dit qu'il fallait passer par la régie, ils vous attendent. Mais ouais. je sais pas ce qui sera.
J'ai avancé de chronique.
Ok, très bien.
Très bien.
À bientôt. Merci Hugo. Toujours sympa, toujours super. Merci Hugo. Et mes amis, l'actualité va commencer. Alors attention. Hervé, vous avez les deux jokers.
Oui,
le thème du soir, Zidane était dans l'actualité. Le thème du soir était j'ai été coaché par Zizou.
Bah, okay.
Bon. Okay,
ok.
Hein? Ok.
Ok.
Des stars, quoi.
Ok.
Attention, je suis le joueur qui a le plus joué sous Zidane. 217 matchs. Le gars le Raphaël plus Varane. Utilisé. Comment?
Raphaël Varane.
Raphaël Varane, vous êtes éliminé. J'étais son fidèle attaquant.
Kabenouébé.
Comment?
Kabenouébé.
Kabenouébé.
Ouais, c'est Benzema, quoi.
Ah ben, c'est 3 points pour...
ouais, voilà.
Attention, les marques ne marchent pas.
J'ai dit parce que c'est plus court et plus rapide à dire.
Ouais, ok.
Je suis deux fois plus vite que la moyenne.
Attention. J'étais coaché par Zizou. J'ai quitté le Real en 2021. Attention, c'est super dur. Je vous le dis...
Ça, c'est honnête au moins de le dire.
Non, c'est super dur. Enfin, c'est pas évident. C'est pas Juan Pedro Lopez, un match, une minute. Non,
ouais, vous inquiétez
pas, comme ça, c'est pas... Voilà. J'ai quitté le Real Madrid en 2021. 4 points. Pour signer en Angleterre.
Varane.
3 points. Varane, vous êtes éliminé. James Rodriguez, vous êtes éliminé. J'ai joué contre le Bayern ce mercredi.
Oh, Odegaard.
Oh, deux là, points supplémentaires pour l'incroyable Nabil qui se détache.
Oui, alors l'incroyable Nabil qui se détache, ouais. On va l'enlever de
RTT là.
RTT.
Vous prenez RTT. un petit RTT.
Dégagé.
J'ai été coaché par Zizou, première indice pour 4 points. J'évolue en Ligue 1. Actuellement.
Je peux pas répondre, je l'ai.
Ouais. Je n'ai joué que 2 matchs
cette
saison en Ligue 1. 3 points pour Giovanni Castaldi. C'est Keylor Navas.
Il joue en Ligue 1.
Attention, ça peut être peut-être rapide. Je n'ai joué qu'une saison en Ligue 1.
J'ai pas entendu.
En Ligue 1 ?
Non, je n'ai joué qu'une saison en Ligue 1.
James Rodriguez,
4 points supplémentaires pour Giovanni Castaldi.
Fallait que ça sorte.
Hervé, on me dit le dernier pour la route.
Okay. Ah, déjà ?
Oui, déjà.
Attends, moi, je vais me concentrer pour les derniers.
C'est pour vous. Ouais. Je n'ai marqué que 6 buts en 76 matchs avec le Real Madrid.
Varane.
Non, mais non.
Jovic,
non plus. Non plus, ni Varane. Non. Non, vous ne pouvez pas.
Je reviens.
Vous revenez ?
Je reviens.
Et pour me dire un truc, j'ai pris ma retraite il y a 6 mois, 3 points.
J'ai pris ma retraite il y a 6
mois. Écoutez, les gars, il y a 6 mois, il prend sa retraite. C'est à Chelsea que j'ai le plus brillé, 2 points. Vous l'avez ou pas ?
Chelsea.
Mes frères jouent aussi au foot pour 1 point.
Hazard. Ah, Eden Hazard. Il a dit à Mathieu. C'est Mathieu qui a gagné.
Je l'ai dit en premier.
De toute façon, c'est moi qui ai gagné.
Non, mais le dernier point compte simplement
1 point. Les frères d'Eden, Thorgan et Kylian Hazard. On vous embrasse, mes petits. Il paraît qu'on est très à la bourre. Donc voilà, on vous embrasse. On vous dit bon week-end sur la chaîne.
J'ai gagné.
Lundi, c'est Rocky.
6 points, j'ai.
Ah oui,
j'en avais 7.